Michel, c'est un plaisir de te recevoir.
Ben, j'imagine.
J'imagine. Une légende comme moi.
Je cherchais quelque chose d'intelligent à dire, j'avais rien.
Ça doit être vraiment un plaisir de me recevoir.
Ça doit être quelque chose pour vous.
J'aimerais ça pouvoir me recevoir tellement que ça doit être incroyable comme sentiment.
Je pense que je vais ouvrir un podcast juste pour me recevoir.
Ouais, c'est ça.
Émission après émission.
Ça sera pas un plexiglas, ça va être un miroir.
Exact. Une entrevue avec moi.
Discussion avec moi.
C'est Jer Alain qui m'avait écrit pour dire que tu lançais ta plateforme puis que
oui, Comment TV. Ouais. Comment TV.tv.
Yes, c'est ça. On en va reparler en long et en large, je suis sûr.
Absolument.
Puis la même journée, en fait, moi je reçois ce message-là, là, je continue un peu ma journée, puis là, ma mère m'écrit, puis là, elle dit hey, faut que vous receviez Michel Courtemanche au podcast. Il vient de lancer sa plateforme. Puis moi, ayant grandi dans les années 90, évidemment. Ouais. Je veux dire, tes sketchs, c'est une des affaires que je me rappelle de mon enfance, là, tu sais. Sans que ça m'aille habiter, tu sais, toute mon adolescence et tout, mais je me rappelle très bien de mon contact avec toi puis ton art. Hein? Puis c'est ça. C'est...
Ben, j'ai arrêté dans les années 90.
Ouais. Ouais.
En 94. 14, j'ai arrêté.
Ah ouais? Ouais. 94?
Okay. En 94, ouais.
Fait que j'imagine que chez nous, c'était les VHS de tes performances, en fait.
Ben, absolument, jouais, ouais. Avec le vieux tape pis tout, là. Il y a même peut-être une version en rouleau de cire, je suis pas sûr. Mais, ouais, c'est VHS. Ouais. Après ça, ça a été mis en DVD. Ça t'as fait un bout, mais il n'y a pas eu de réédition des spectacles.
Mm-hmm. OK. Fait que ça a duré finalement, ça a terminé en 94, puis les débuts, ça a été vers quelle année, dans le fond? Ça a duré combien de temps sur cette période-là de scène puis de spectacle?
Ça a parti en 84, okay. À peu près. Là, c'est semi-professionnel, là, semi-croquant. Et j'ai fait...
Comme ils disent dans le milieu.
et sur les côtés. j'ai fait de... Mais officiellement là, j'ai commencé avec Les Monstres de l'humour en 86.
Okay.
Et puis j'ai arrêté en tournant un film médiocre, justement, oui. Médiocre en France en 96.
Okay.
Et c'est la dernière affaire que j'ai fait là-bas, en France. Et puis après ça, quand je suis revenu à Montréal, j'avais arrêté les spectacles. Ouais. Il n'était plus question que je fasse de scène, là, j'étais tanné. Puis, de toute façon, je voulais faire autre chose. Je voulais faire de la réalisation plus qu'autre chose. Et j'ai été pris comme comédien dans une série britannique où j'ai joué en anglais pendant 10 mois. Il a fallu que je prenne des cours d'anglais.
Pour le rôle. Ils t'ont casté avant que tu prennes des cours.
Ben, ils voulaient quelqu'un avec un gros accent. C'est parfait. Bon. C'est parfait. Ouais, on va y aller naturel.
Idéal.
Et puis, j'ai tourné ça pendant 10 mois. Puis après ça... mon Dieu, j'ai rien foutu pendant un petit bout, sauf peut-être lever le coude et lever la narine.
Ouais.
Et
ouais,
puis, hein. Oui. Et parti en désintox pendant quelques semaines. Ensuite, aujourd'hui, ça fait 22 ans, je consomme plus. Mais entre ça, j'ai démarré une compagnie de production télé que j'ai vendue. Mais qui fonctionne toujours. Ensuite, j'ai fait beaucoup, bien des affaires de mise en scène, écrire des spectacles, faire du coaching au Cirque du Soleil, avoir des clowns
coaching,
à travers.
Coaching de clown, c'est ça?
Ouais, exactement.
Qu'est-ce qui se passe dans un coaching de clown?
Ben en fait, moi, ce que je faisais, c'était de vérifier si physiquement, il était apte à faire ce job-là. Même s'il y en a que ça faisait longtemps qu'ils le faisaient, bon, au niveau des mouvements, c'était pas tout à fait ça. Moi, j'essayais de leur apprendre ma technique que j'utilisais.
Ça doit être difficile à transmettre, ça.
C'est pas difficile à transmettre, mais c'est difficile à apprendre. Si tu l'as pas en partant.
Ouais.
Tu sais, c'est comme quelqu'un qui sait pas danser le breakdance, là. Ça va être tough. S'il l'a pas, là, t'as beau y montrer, il l'aura jamais. Puis le mime, c'est un peu ça, hein. C'est des vieilles techniques de breakdance, de mime, de, tu sais, mon physique en général.
Toi, est-ce que t'étais formé, mettons, dans cette tradition-là du mime puis du clown, ou t'as créé ta propre...
Moi, j'ai créé, je pourrais dire, entre guillemets, mon propre style, mais en copiant sur un modèle de mime, bien sûr. De la minute que j'ai compris que tout était basé sur le principe d'une vague...
Qu'est-ce que tu veux dire?
Comme les...
Ouais.
Bon, tout est basé là-dessus. Okay. Du point d'impact en premier. Ton premier point d'impact est le dernier point d'impact à bouger. C'est-à-dire que si tu te fais pousser... une épaule, ta tête, elle va bouger en dernier. Si c'est la tête en premier, les épaules vont suivre. Ça dépend de quel point d'impact puis quelle partie du corps va réagir en dernier.
Puis, mettons, cet art-là, justement, puis toutes les subtilités du mouvement, tu l'as appris par toi-même, en expérimentant, en regardant, en checkant les affaires?
Tout jeune, j'avais vu Claude Saint-Denis, qui est un mime très, très, très populaire à l'époque, faire un spectacle au Centre de la nature, et puis ça m'a fasciné. Mm-hmm. Et puis, en revenant à la maison, j'ai comme essayé de recréer ce que j'avais vu devant le miroir pour voir, tu sais, si... Puis j'ai découvert très, très jeune, là, vers l'âge de 10 ans, que j'avais cette possibilité-là, mm-hmm. là, de faire à croire aux gens que j'étais soit en arrière d'un mur ou si j'ouvrais une fenêtre où il y avait du vent, ou des affaires classiques.
Tu le faisais pour faire rire tes chums à l'école?
Je le faisais, oui, pour faire rire mes chums à l'école. Puis à un moment donné, il y en a un... Plus tard, à Polyvalente, là, le gars, il avait une voiture avec un toit hanté. Mais habituellement, il y a des fenêtres, mais là, il n'y en avait pas. Un toit hanté, ouais, ben okay. C'est comme une Corvette. Là, putain.
Pas des fantômes dans son toit, là.
Non. On n'a pas fait d'exorcisme sur le char. Mais et là, les deux vitres étaient parties, mais lui, il était gelé comme une balle, là, tu sais, puis il regardait son char. Puis là, je suis arrivé en face de son char, puis là, j'ai fait comme si les vitres étaient là. Là, il regardait... C'est le premier prank de mime que j'ai fait à quelqu'un.
Au début, c'était pour faire rire, pour ça, c'était pour pranker.
Parce que quelqu'un d'intelligent aurait fait...
Ça s'est rapidement tourné vers être un troll.
Tiens, je tire une corde. Aïe, il y a une corde! J'avouais pas! Non, c'était bien drôle. Mais je faisais ça, oui, à la petite école pour amuser les amis. Parce que en cinquième année, je me rappelle mon professeur Dominique Arabi, m'a toujours me rappelé de son nom. Lui, il avait compris là, que j'étais pas normal. Et il me disait, bon, à chaque vendredi, OK, tu vas avoir ta demi-heure, tu vas en avant de la classe, mm-hmm. fais ce que tu veux.
OK.
Je dis, OK.
Puis toi, c'était comme un peu ton début de scène, là.
C'est ça. Fait que, ben, c'était une façon de canaliser mon énergie, tu sais, parce que j'étais très, très, très turbulent.
Ouais, c'est ça, tu devais
pas être tannant, mais j'étais turbulent, tu sais. J'étais comme un peu TDAH.
T'avais envie de bouger, là.
Ouais, c'est ça. Ouais. J'avais des verres dans le. Et je faisais les spectacles à la fin de la semaine. Puis, c'est toujours resté un peu, là, faire rire les collègues d'école, tout ça.
Puis à ce moment-là, que tu faisais ces spectacles-là, tu trippais, là. C'est quand le moment devant la classe?
Ben, j'étais nerveux parce que je savais pas ce que j'allais faire, mais j'improvisais. Okay. Je faisais n'importe quoi. Je faisais une parodie d'une pub ou un sketch que j'avais vu je sais pas où. Ouais. Je faisais de la récupération, là. C'est de l'échantillonnage.
OK.
Puis l'espèce de pantin désarticulé là, du personnage de mime, est-ce qu'il s'est formé dans ces années-là? Est-ce que...
Ben, il s'est surtout formé en impro.
Ouais.
Quand j'ai commencé à faire de l'impro au Cégep Montmorency avec Claude Legault, Martin Petit, mm-hmm. puis tout ça, mm-hmm. C'est là que j'ai vraiment évoluer dans ce modèle de comédie-là, là, de faire de la comédie physique, parce qu'en impro, t'as pas de décor, t'as pas de costume, t'as rien, là, t'sais.
Ouais.
Fait que, t'sais, si je voulais mimer que j'arrivais en char, ben, j'étais capable peut-être de mieux le faire que les autres.
Ouais.
Donc, c'est là que j'ai comme fait évoluer cette technique-là.
Mm-hmm. Mm-hmm. Puis, est-ce qu'à ce moment-là, t'avais des personnages clés que t'incarnais? sais, est-ce que tu en avais auquel tu revenais, là? Tu sais, parce qu'on pense, quand on pense à ton œuvre, on a tu sais, des classiques qui nous viennent, comme l'haltérophile ou le drummer ou, tu sais, le golfeur, ces choses-là, on y pense, tu sais. Mais toi, est-ce que tu avais ça? Mettons, quand tu étais en impro, est-ce que des fois tu retombais dans.
Ah, il y en a un qui revenait tout le temps, là, que j'appelle Toupidou, là. Il dit tout le temps ça. C'est la seule affaire qu'il dit.
Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait?
C'était, ben, il est juste niaiseux, là, tu sais. C'est celui, mettons, si vous avez vu des extraits de spectacle, là, c'est lui qui va dans la machine à photo, mettons, là. C'est Toupidou qui y va, là, tu sais. Toupidou qui fait une autre affaire. Puis même que dans d'autres personnages, mettons, mon Américain au Western ou le Russe, il revenait des fois dans le personnage.
Ouais.
Donc, c'était un personnage qui était passe-partout, un peu, là, qui m'aidait beaucoup quand j'improvisais. Ouais.
Ouais. Mm-hmm.
Je te posais la question, tu sais, si, quand tu étais jeune, parce que, tu sais, mettons, ceux qui te connaissent savent, tu sais, que tu as eu une très grande carrière pendant une période de temps, tu t'es tanné, tu as décidé d'arrêter. Mm-hmm. Mais quand tu étais petit, tu le faisais, tu faisais rire tes chums, tu devais aimer ça. Puis quand est-ce que le switch s'est fait, que tu as commencé à ne plus vouloir faire ça, ou est-ce que le plaisir était plus dans le faire pour toi devant le miroir, puis développer ton mime, puis que la finalité, c'était pas nécessairement de faire un spectacle avec ça, puis d'être
ben,
devant le monde?
Moi, ce que je voulais faire dans la vie, c'est être réalisateur.
Okay.
C'était pas
ça
être comique
été la
sur scène.
Le but. Ça n'a jamais été ça, le but.
Jamais.
Okay.
Si ça m'amenait à la réalisation, ben tant mieux, là, mais
okay.
Ça a été un hasard un peu, parce que moi, je devais être graphiste, imagine.
Okay.
Ma mère m'avait acheté une table à dessin, tout ça, elle était déçue. Et je devais.
Ah ouais, que je dessinais sans crayon.
C'est ça.
Je m'y mets avec une table.
Rien, je sais. C'est de l'encre invisible. Et puis, je savais pas trop quoi faire dans la vie, mais c'est à force d'en parler avec les autres, je sais pas quoi faire. Je vais-tu être graphiste? Tu sais, je voulais une vraie job.
Mm-hmm.
Et puis les gens me disaient, ben voyons, tu sais. T'es faite pour aller sur la scène. Là,
ouais, c'est ça, tu l'as naturellement.
Ouais, mais tu sais, je sais pas, t'sais, écrire un show, là, une heure et demie, puis gna, même deux heures à l'époque. Non, tu sais, ça me tentait pas bien. Finalement, c'est un de mes amis.
Ça t'a jamais tenté, tu sais, cet appel-là?
Ben, c'est un peu prétentieux, je vous dirais, de dire je suis tellement drôle que je vais aller le prouver sur scène à des milliers de personnes en même temps. Tu sais, je suis tellement drôle qu'il faut que tout le monde le sache, là, tu sais. C'est un drôle de concept, je trouve, là. Faire rire les gens, c'est le fun.
Mm-hmm.
Mais écrire un show, partir en tournée, puis tout perdre, non, ça, c'est le moins. Alors, ça m'attirait pas tant que ça. Finalement, je l'ai fait par défaut. Je suis rentré dans monstre de l'humour. Après ça, je me suis retrouvé seul. Je suis parti. J'ai fait cavalier seul pendant 6 ans.
Mm-hmm.
Alors, ce qui faisait que ça me tentait moins, pour répondre à ta question, là, c'est que quand tu n'aimes pas ce que tu fais, ou en tout cas, c'est pas. Tu sais, c'est correct. J'aime ce que je fais, mais je fais pas ce que j'aime. C'était ça le problème. Fait que moi, comme je voulais être réalisateur, ben l'humour, pour moi, c'était correct, là, mais c'est pas ça que je voulais faire. Là,
ouais.
Et je savais que je m'en allais lentement vers la réalisation. Mm-hmm. Fait que ça, le fait de pas aimer ce que tu fais, c'est que, ou pas faire ce que t'aimes, c'est angoissant.
Ouais.
Parce que ça devient une job.
Ouais.
T'sais? Mm-hmm. Fait que là, t'as ta job, faut que t'ailles faire rire du monde, peu importe comment tu te sens. Peu importe.
Mm-hmm.
Si t'es malade, si quelqu'un est mort, si quelqu'un tu viens de te faire crisser là, tu sais, là,
ouais.
Peu importe, là, show must go on.
Ouais.
C'est les sous qui comptent. Alors, à la fin, justement, je me sentais un peu comme un guichet automatique, là, où tout le monde passait sa carte.
Puis tout l'entourage en prenait une partie de la
carte. Ben oui, ouais. Une grosse partie. Alors, non, pour toutes ces raisons-là, je sentais trop de pression, là, trop de monde travaillait pour moi, puis il y a un bureau, puis tu sais, là, tabarnan, tu sais, tu te sens coupable d'avoir l'idée de peut-être même tout lâcher, t'en parles pas à personne, puis mais il y a un moment donné où c'est assez.
Mm-hmm.
C'était plus rendu de faire rire les gens, là, c'était rendu de quoi de beaucoup plus gros que ça.
Ah, c'était rendu une job.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'était rendu une job banale, là. Il y a des fois, là, je je faisais des numéros, puis je suis en train de me dire, bon, c'est que moi, aller manger après. À quel hôtel que je suis? Mais quel étage? Tu as la clé sur moi, ce type? Voyons, veux-tu bien me dire, Christine? Tu sais, ça avait.
C'est rendu un automatisme, un pilote automatique tout au long.
Ben, 250 shows par année, là, mettons que.
C'est tellement du stock, c'est là. C'est tellement des shows, man.
Ouais.
Ça n'a aucun sens.
C'est physique, fait que c'était extrêmement exigeant.
Mais oui, c'est ça, en plus, c'est ça.
Tu te donnes à 100% à chaque fois pour que ça passe,
oui.
Là, tu sais.
Ben oui, parce que sinon, les gens. Il voit qu'il se passe quelque chose de pas correct, là, tu sais.
Puis ça doit être un paradoxe difficile à porter, tu sais, parce que, tu sais, clairement, t'avais un talent pour ça, tu sais. Clairement, t'avais un talent pour la scène, t'avais un talent pour faire rire le monde. Juste depuis que t'es arrivé ici, tu sais, on rit, puis tu sais, t'as un talent pour la mimique, ça, c'est indéniable, tu sais. Mais d'avoir ce talent-là, mais pas aimer ça, tu sais.
Mm-hmm.
Puis de voir jongler avec ça, tout le monde te dit, t'es tellement bon là-dedans, nanana. Puis, ben oui, mais j'aime pas ça. Je suis obligé de faire quelque chose que j'aime pas juste parce que je suis bon, tu sais. Ça doit être
ben, tu sais, la job idéale, ça. C'est pas la job que tout le monde veut, là, tu sais. La job idéale, c'est celle que t'aimes, tu sais.
Ben oui.
Les gens me jalousaient beaucoup, là, tu sais. Puis ils étaient vraiment tabarnak quand j'ai tout lâché, là. Les gens comprenaient pas.
Il y en avait qui roulaient sur l'or, sur ton dos.
Ouais, c'est quand t'as tout lâché, c'est ça. Mais il y a aussi le fait que j'avais cette maladie mentale-là qui n'était pas encore déclarée, qui me hantait, là, tu sais.
La bipolarité.
Je voyais que j'étais pas heureux, puis je me demandais vraiment pourquoi, parce que tout le monde me disait que j'avais tout.
Ben oui, c'est
quand
ça.
T'as tout, t'as pas le droit de te plaindre.
Ben exact, parce que c'est une place, tu sais, justement, le succès que t'as connu ici, en France, tout ça, c'est une place que ben des gens dans ce milieu-là rêveraient d'avoir, puis voudraient
absolument.
Avoir, puis qui sont tellement loin de comprendre.
Mais la place, elle est là. C'est moi, je suis parti.
Prenez-la,
le marché, là, tu sais.
Non, mais exactement, tu sais, que je peux pas croire qu'il s'en va de ça, mais si la personne n'est pas heureuse, elle n'est pas heureuse, là, tu sais. On peut pas vouloir plus que cette personne-là.
Je vois pas. C'est pas. Il y a pas un montant d'argent qui va faire que tu vas être heureux, là, tu sais. C'est impossible, là.
Puis aujourd'hui, quand tu repenses à cette période-là, est-ce que tu as une certaine nostalgie ou pas en tout?
Je pense pas souvent.
Moi,
c'est les gens qui me le rappellent, surtout.
Ouais.
Moi, j'ai tourné la page ça fait longtemps, mais des fois, je vais recevoir un Facebook d'un gars de l'Ouzbékistan là, qui est clown, puis qu'il a vu mes cassettes quand il était petit, puis il est devenu clown. Bon, il y en a un de la Russie là, qui m'écrit, puis ben, moi, je suis clown, parce que toi. Justement, ce matin, je jasais avec un Brésilien. Là, ouais, je suis au Mexique, viens donc me voir, on va avoir du fun, nanana. Fait que, tu sais, il y a des clowns à travers la planète qui m'écrivent, qui me disent que j'ai été une source d'inspiration pour eux autres. Mais c'est eux autres qui me le rappellent.
Mm-hmm.
Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, du mieux que je pensais que je pouvais le faire. Tu sais, j'ai jamais pensé à un impact, j'ai jamais pensé à. Je le faisais, that's it.
Puis, quand, mettons. Durant cette période-là, tu sais, on peut regarder des entrevues de toi dans lesquelles t'es encore un peu ce personnage-là, là, encore un peu le personnage exubérant puis un peu fou. Mm-hmm. Est-ce que ça, c'était quelque chose que consciemment tu faisais ou c'était juste la personne qui t'étais dans cette espèce d'instabilité de carrière qui te plaisait moyen puis que tu t'incarnais? Là.
Toi, tu faisais les entrevues télé, genre, que je faisais, partout, là?
J'ai un exemple, c'est ça, l'exemple avec l'entrevue qui se trouve sur YouTube pour les gens qui nous écoutent s'ils veulent voir ça, là, avec Grégory Charles.
Oui.
Où est-ce que tu arrives, puis là, il y a comme la musique, puis qu'à tout moment, tu te relèves, puis là, tu craches de l'eau partout, puis personne comprend ce qui se passe avec toi, tu sais.
Ben,
tu fais comme le Laurent Houtan, puis...
Tant qu'à passer à la TV, là, pour faire de la promo pour un show, aussi bien que ça marque le monde.
Mm-hmm.
Moi, je me suis toujours arrangé pour faire des affaires pas normales, là, comme si je donnais l'impression de « I'm losing it ». J'ai pris trop de drogue, puis je chauffe partout. Là.
Ouais.
Mais j'avais des meilleurs commentaires sur ces entrevues-là que quand je faisais des numéros à Juste pour rire. T'sais.
Mm-hmm. Ouais.
Alors, puis souvent, ça se ramassait dans les best-of. Puis ça, c'était un peu un... Comment je te dirais, ça a toujours été un peu mon secret, c'est-à-dire que quand je passais à une émission, je m'arrangeais pour que ça soit tellement le bordel que tout le monde parle de la contrôle, même l'animateur, les caméramans, tout ce que tu voudras, que ça, ça passait d'un best-of
à la fin. C'était de la promo gratuite.
C'était de la promo gratuite. Puis c'était la même chose avec les Juste pour rire. Tu t'arranges pour être dans les best-of. C'est comme ça que les gens créent ce best-of. c'est un bon sell pitch, mettons.
Dans ces occasions-là, est-ce que l'animateur est de connivence ou pas pantoute?
Ah, oh, pas pantoute.
Ah ouais, hein?
Grégory Charles, quand il a l'air de rien comprendre, il comprend rien.
Il comprend rien.
Mais le band était clairement de connivence.
Ben souvent, c'était des musiciens que je connaissais.
Okay.
Je me rappelle avoir croisé souvent Mego, Scott Price. Ces deux-là, à toute fois que j'arrivais sur un plateau, ils jouaient ma toune, qui était une toune de AC/DC, Thunder, je pense.
Ouais, ouais.
Ils jouaient cette toune-là à toute fois que je rentrais sur une émission de télé, là, tu sais. Fait que les musiciens, ils me connaissaient. Puis quand je me levais sur le banc, je retombais, ben là, ils punchaient. Ouais. Fait que j'étais toujours de connivence avec le band. Tout le temps, tout le temps.
Puis quand tu regardes ça aujourd'hui, les vidéos de tes sketchs ou de tes apparitions TV, est-ce que... on parlait avec Jean-Thomas Jobin, tu sais, puis il disait ses premiers sketchs, c'est comme s'il se reconnaissait pas. Et toi, quand tu te vois, est-ce que tu te vois toi ou tu vois quelqu'un d'autre?
Ben non, je vois moi.
Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Même quand j'ai joué dans la série de Jules Verne, la série britannique, je m'efforçais d'avoir un personnage, puis... Quand on a regardé les premières émissions, c'était moi. Je disais, c'est aucune différence,
c'est
encore moi.
C'est le même gars.
C'est là. Fait que sur scène, c'est juste moi qui grimace. Là, ouais. J'avais pas. Je savais pas comment vraiment écrire un sketch. Ça a été long avant que je découvre comment écrire un sketch, puis comment y arriver, puis du début à la fin, puis là, tu sais. À la fin, c'était plus facile à écrire, là, parce que j'avais ma mécanique, mais je me rappelle même pas ce que je voulais dire.
Non, mais la question que je te posais...
Tu te reconnais quand même.
Oui, mais je me vois pas différemment de ce que je suis dans la vie. Tu sais, je suis tout le temps le même.
Ouais.
Je suis toujours en train... Parce que moi, je suis quelqu'un de très ludique. Là, j'aime pas quand c'est trop sérieux. J'aime ça, à un moment donné, casser ça, faire une joke. Ouais. Ou ça serait quoi la pire joke à faire à ce moment-là? Ou ça serait quoi le contraste que je pourrais dire par rapport à telle affaire?
Ouais.
Alors, j'aime ça... j'aime ça. Ben j'aime ça faire rire les gens. Tout simplement, dans un soupir. Mais c'est pas pour me faire aimer. J'aime ça faire rire les gens. Mais ça, c'est inné, là. C'est dans
ben,
moi, là.
C'est, tant qu'à moi, c'est juste dire, c'est juste vouloir donner, puis sans l'ego qui vient avec, là. C'est la meilleure approche.
Ben,
moi,
c'est juste de mettre un peu de, pas de bonheur, ce serait prétentieux, mais un peu de plaisir, tu sais.
Ben,
bon, le bonheur, c'est pas une accumulation de plaisir, mais de juste comme relaxer les gens, tu sais, les faire décrocher de leur quotidien, puis c'est comme quasiment de l'hypnose. Tu vas aller mieux quand tu vas rire. Fait que c'est ça. Je suis très très j'aime faire rire les gens, mais de là on en revient à la discussion de tantôt. De là on va faire une job puis de le montrer à tout le monde.
Puis tu sais aussi tout ce qu'il y a en arrière, là, je veux dire, mettons la tournée. Ce qu'on voit, ce que le public voit, c'est le moment où t'es sur scène, que le monde rit. Mais la tournée, je veux dire, t'es pas chez vous, t'es tout le temps en déplacement. Tu sais, il y a quelque chose de...
Finalement,
le moment où t'es sur scène puis que tu fais vraiment ta job, il y a tout un arrière-scène qu'on voit pas.
C'est une fraction de la
tournée. Une fraction du temps, finalement, que tu mets là-dedans. Puis que, tu sais...
Ouais, c'est une fenêtre.
Moi, ce que je connais...
Tu regardes un bout de vie qui est pas le bon bout de vie, là. Mais moi, tu sais, j'ai été très difficile à déraciner. Jamais j'aurais été capable de vivre en France. Jamais j'aurais été capable de vivre en Allemagne, en Espagne, au Portugal, whatever, là, même pas en Angleterre. Alors, j'aimais le Québec, jamais être chez moi, j'aimais ça. Puis quand je partais, ça me déchirait.
Ah ouais.
Puis j'ai perdu beaucoup de gens, là, j'ai perdu beaucoup d'amis. Ma famille, je la voyais plus. J'ai perdu des blondes. C'est ça, là, tu sais.
Ouais.
Tu perds tout le monde en faisant quelque chose que
t'aimes pas,
pas tant que ça. Simonac, moi, tu lâches ça assez vite. Ouais.
Est-ce que si t'avais fait... cette année, mettons, 20 ans plus tard, est-ce que, mettons, tu resterais chez vous, tu ferais même affaire, mais tu ferais des sketchs, tu mettrais ça sur YouTube, mettons? Plutôt que de te déplacer et de devoir aller
dans ce
sur scène, justement, éviter cette...
Je sais pas. Si, mettons, on avait eu... Ben, c'est sûr que si on avait eu des iPhones il y a 20 ans,
ouais.
il y a 25 ans,
ouais.
peut-être que je serais encore en tournée.
Mm-hmm.
Parce que je verrais ma blonde, je verrais ma famille, je discuterais avec eux autres. Mais là, c'était pas ça. J'avais cellulaire, ça existait même pas. C'était un radio-téléphone que j'avais dans l'usine. Là. C'était des pampons peu avec des gros boutons.
Ouais, avec les interurbains. Fait que c'était compliqué de rester en contact. Là,
c'est, ben, c'était impossible. Infaisable. Ouais. Il fallait que je donne des rendez-vous à ma blonde à l'époque, que j'avais à l'époque. OK, mardi, 14 heures, ça va sonner, ça va être moi, là, tu sais.
Mm.
Fait que c'était insupportable.
Ah, oh, je comprends. Je comprends vraiment.
Mm. Puis, c'est quand que t'as commencé à... Tu sais, là, il y a eu une espèce de breakdown puis de chute, là, tu sais, qui a été assez médiatisé, je pense, là.
Oui, oui, oui.
Puis après ça, quand tu sors de thérapie,
mm-hmm.
c'est comment est-ce que tu te retrouves puis tu reprends contrôle de la direction que tu veux que ta vie prenne?
Ben c'est long, hein? c'est vraiment long, surtout quand t'es bipolaire, là, t'es instable, fait que tu peux tomber, tu peux remonter, fait que quand t'es bipolaire, tu sais même pas qui t'es, t'sais, dans le sens que...
De te faire diagnostiquer, ça a dû être quand même un soulagement.
Oui, 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 pour moi, oui.
De faire,
bien du monde que je connais, ça les mettait en tabarnak, mais moi, ça m'a soulagé, là.
T'as compris quelque chose,
hein? Ah ben oui, mais là, c'est parce que j'ai compris tout mon comportement. Quand on m'expliquait c'était quoi la maladie, je dis, ben oui, tabarnak. À partir de là, je savais quoi faire.
Ouais.
Mm-hmm.
Je dis, je vais prendre les moyens pour. Ça se guérit pas, là, malheureusement. Puis j'ai encore des crises aujourd'hui, là, surtout encore plus pendant la pandémie, parce que la solitude, c'est correct, mais l'isolement, c'est tough en tabarnan. Pour un bipolaire, là, c'est pas le fun. Fait que ben, le truc que j'ai trouvé, c'est vraiment de beaucoup m'occuper le cerveau. Là. J'écris, je monte, je réalise, je fais un paquet de projets en même temps. J'essaie d'en revenir à ta question.
Ben, comment est-ce qu'une fois que tu t'apprends que tu as le diagnostic, tu reprends ta vie?
C'est une longue démarche.
Ouais.
C'est une très longue démarche. Faut pas lâcher. Moi, ça fait 22 ans que je sais que je suis bipolaire.
Oui, ça fait 21 ans que tu es
J'ai encore. C'est que la maladie bipolaire, elle se modifie. Tu n'as jamais le même comportement. Tu n'as jamais les mêmes réactions. Tu n'as jamais les mêmes émotions. Tu sais jamais t'es qui, à quel moment. Des fois, je peux être dans un high bipolaire, je m'en rends pas compte, puis je dis des affaires que le lendemain, je me fais reprocher. Je fais quoi? J'ai dit ça, moi? C'est, voyons donc. Ah oui, j'ai dit ça, t'as pas. Et qu'est-ce que je filais pas? Trois jours plus tard, je dis, ah, j'étais vraiment dans un high, là. Puis quand tu dis des affaires quand t'es down, c'est la même affaire. Mais c'est pas quelque chose qui se maîtrise. T'as la médication qui va essayer de niveler le mieux qu'elle peut, là, tu sais.
Ouais.
Mais c'est vraiment ton mental à toi, puis de l'accepter aussi que t'es bipolaire. Là. C'est ça qui est bien important. Mais c'est dur de t'auto-analyser tout le temps, parce que moi, tu sais, m'a sorti du site, m'a dit, OK, j'ai parlé de ça, j'étais-tu dans, j'étais-tu correct? Là? Mm-hmm. Ça, c'est comme ça, oui. J'espère que j'étais pas bête, OK.
Ça crée une anxiété de genre, est-ce que j'ai-tu dit quelque chose, j'ai-tu fait de quoi, que j'étais-tu dans un bon mindset?
Ben, c'est pas tant de l'anxiété que d'essayer d'analyser pour voir... Parce que je suis toujours après quand j'ai eu une crise bipolaire ou pas.
Okay.
Parce que c'est tellement pernicieux, puis ça vient tellement lentement que tu t'en aperçois pas. Puis à un moment donné, là, ta bulle à pète, oh boy, si j'étais dans un rail. Fait que ça m'arrivait quand on faisait de la tournée, puis on était au début de la tournée, je disais, OK, ouais, il y a même moi des shows là, 6 par semaine, alors ouais, il y a 4 mois en ligne, ta. OK, avec le monde, ouais, ça rentrait ça.
Mm.
Mais là, quand je revenais, j'étais dans un down, il fallait que je les fasse les 4 mois. Mm-hmm. Parce que t'es pas juste down mentalement, c'est physiquement, t'as plus de force. Fait que c'était bien exigeant. Mm.
Fait que quand t'étais dans un down, puis tu voyais les shows arriver, c'est là, je pense que tu entendais dire, des fois, tu dormais pas, tu sais, puis que c'était vraiment, là, tu voyais ça comme si.
Ben, ta montagne, tête, elle spin, puis là, le mauvais track, c'est mêlé de ça aussi.
Ouais.
Parce qu'au début, le track, c'était vraiment le fun, mais là, c'est devenu qu'un track négatif, donc c'est comme du bon cholestérol, puis du mauvais cholestérol.
Ouais.
Et donc, ça me paralysait, moi. le trac. Donc, je devais prendre des calmants pour... je prenais du Rivotril. Mais c'est un médicament, c'est dans la famille des benzodiazépines, puis c'est très addictif.
Okay.
Alors, j'ai pris ça pendant des années, mais la dose, je l'augmentais tout le temps. Mmh. À la fin, je prenais comme 20 fois la dose permise. Okay. Alors, ça n'avait plus de sens. Là. J'étais gelé comme une balle là, quand je faisais chaud parce que j'étais beaucoup trop nerveux.
OK.
Tu sais, t'as trop de monde. Là, des fois, je faisais des places, il y avait 2000 personnes, 2005, 3000. Hey, à un moment donné, je me rappelle, j'étais parti du stage parce que je voulais aller dans le fond pour je sais pas quoi, mais le public était là.
Ouais.
Je suis allé dans le fond, puis quand je parlais, il y avait un délai. Je me disais, OK, là, c'est creux en tabarnane comme sale, ça. Là. C'était hallucinant, là, tu sais. Fait que je suis revenu en avant, puis ça m'a comme donné le ton un peu de où c'est que j'étais rendu dans ma carrière, là, tu sais. Quand c'est rendu que tu es plus loin que le son, il y a quelque chose qui marche pas. Il y a comme une surenchère, je te dirais, là, de on fait des grosses salles, puis tu sais, on est une grosse machine. Là, ça mettait bien de la pression.
Puis la consommation, c'est sûr que ça n'aide pas à régulariser la bipolarité.
Ben en fait, non, c'est de l'automédication qu'on appelle.
Ça,
là. Mais moi, j'ai jamais consommé avant d'arrêter de faire de la scène.
Ouais.
Okay. À part ça, là, à part ces médicaments-là.
À part les médicaments, oui. Ouais. Les drogues légales.
Wow, ouais.
Mais ça, c'était-tu... Ah, c'était légal, mais est-ce que c'était prescrit ou c'était...
Oh, oui, c'était prescrit.
Okay.
Ben, ça venait avec des gros pots, là. Mm. Ouais, le pharmacien m'a donné le gros pot de mannequin. C'est OK. Mais non, j'ai jamais pris de drogue. J'ai jamais... tout le monde pense que quand je passais à la TV, j'étais sur la poudre, je chaudais partout. Ouais. C'était pas ça pantoute. C'est que je savais tellement pas... J'avais tellement de la difficulté à gérer mon stress que je perdais la mémoire. Puis quand je rentrais sur le set, mettons, de la télé, là, je perdais le contrôle. En ayant un contrôle sur le chaos, là, tu sais.
T'étais sur l'adrénaline
complètement.
Fond.
J'étais là, explosif. Je voulais pas montrer que j'étais nerveux, mais que j'étais fou. Ça, c'était correct, t'sais.
Puis tu t'en rappelles-tu quand tu penses de ces moments-là? Ou c'est comme des blackouts?
Tu
te rappelles avoir fait l'entrevue, mais tu te rappelles pas de...
Tu te rappelles que t'es à Radio-Canada, mais tu te rappelles pas ce que t'as dit pendant l'entrevue, là.
Ah ouais.
Surtout quand l'animateur vient te voir, après, puis c'est tabarnak, t'étais sur quoi, tu sais? Je sais pas, j'étais nerveux, là, t'es nerveux. Faut que c'est ça. J'ai pas consommé dans ces temps-là.
C'est ça qui a marqué le monde à ce point-là, tu sais. Puis encore aujourd'hui, tu sais...
Ben, il n'y a personne qui faisait ça. J'ai toujours essayé d'aller où que personne n'avait été. Ou faire les choses différemment. Si tu fais ça, fais-les différemment. Fais pas comme tout le monde. Mm-hmm.
Mais bref, après cette période-là, là, on est tombé dans une période dark de consommation un peu plus. Puis ça,
ouais. Ah, oh, c'était dark.
C'était dark.
Ah oui, j'étais mon père. dark, mais ça a duré 3 ans.
Okay.
Ouais. Mais tabarnane, gaz au fond, là.
Ah ouais.
Parce que moi, on m'avait dit, tu vas voir quand tu vas être populaire, tu vas être heureux, toi, la maison, la femme, le chien, la piscine, le char, tout ce que tu voudras, tu dois tout avoir,
Malade.
Là, t'arrives, justement, au point où t'es le gars le plus populaire du moment.
Mm.
Puis tu perds ta femme, tu vois plus tes amis, ta famille. C'est ça le succès, tu sais. T'es tout seul en haut de la montagne, puis tu dis, mais je fais quoi? Je le partage avec qui? Je le partage avec mon gérant. Je fais quoi, là? Je peux pas aller plus haut, là. Je peux pas, tu sais, après ça, c'est la stratosphère, là.
Mm.
Fait que là, j'étais en haut de la montagne, malheureux. Puis tu sais, si tu pleures sur un sofa, 500$ ou sur un sofa de 5000$, c'est la même peine. Là. Et là, j'étais dans le salon chez moi, puis je regardais là, tout ce qui m'arrivait, puis tout ce que j'avais perdu, puis je me disais, ben non, c'est pas possible. Il faut que j'arrête. Il faut que je redescende la montagne, peu importe ce que les gens vont me dire, puis je veux savoir ce que j'ai. Parce que je vais pas bien. Je vais pas bien.
Mm-hmm.
Souvent, parce que quand t'es bipolaire, t'as des hallucinations aussi, auditives ou visuelles.
OK.
Et ça m'arrivait souvent backstage, des fois quand j'attendais pour monter sur scène, puis qu'il y avait juste les murmures dans la salle, tout ça, hein? Mais là, que je me mettais à entendre des voix ou voir des gens passer dans les coulisses, ou là, j'aimais pas ça, là. Puis ça me... Je sentais toujours une présence comme fantomatique derrière moi. Il fallait toujours me retourner vite pour voir s'il y avait quelqu'un. Ou, fait que les débuts de show, pour moi, ça m'angoissait. Là, je voulais pas être tout seul. Puis la fin du show, je courais dans ma loge pour pas avoir à passer dans les rideaux noirs puis tout ça. Fait que j'étais rendu vraiment paranoïaque, là. T'sais, la maladie mentale là, était vraiment... souvent, elle était très, très, très aiguë, là, tu sais. Où t'entends des trucs, puis là, t'es tout seul dans l'âge, mais OK, c'est pas possible, tu sais. Donc, c'est ça que ça aide la pharmacologie, là, à empêcher d'entendre des voix puis d'avoir des hallucinations. Mais ça, c'était un élément de stress très... Ça m'a traîné longtemps.
Fait que.
Oui.
Fait que. Après ça, tu te ressentes. Mettons, là, tu dérapes pendant un bout à pas trop savoir où aller. Tu rentres en thérapie. Y a-tu quelqu'un qui te fait rentrer en thérapie ou c'est par ta propre. En
désintox? Moi, ce que je me rappelle, c'est mon chum, Marc Desourdis, qui habitait chez moi parce qu'il séparait de sa femme. J'étais rendu l'accueil Gono, là, toutes mes chums qui se séparaient venaient chez nous. Et c'est
une grosse maison,
tout
ça.
C'est lui, en fait, lui est allé dans cette clinique de désintox-là, puis il m'a suggéré d'y aller. Ouais.
Tu reconnaissais que tu avais un problème ou pas? Ou tu
l'acceptais pas encore, non, pas encore. Et consommer. Finalement, il y a un matin, je suis sur le sofa dans Verrières, en arrière, puis. Je vais pas bien, là. J'étais en caleçon, je suis couché sur le sofa, puis j'ai essayé de dormir. Puis mon gérant de l'époque est venu me voir, puis là, il a dit, il faut que tu fasses de quoi. Au début, tu sais, je pensais qu'il tenait vraiment à moi, là, tu sais. Ça m'a comme touché à quelque part, là, tu sais. Puis il insistait, là, tu sais, pour qu'on parte même aujourd'hui, qu'on aille à la clinique, puis qu'on aille... Je dis non, c'est correct, je vais dormir, puis je vais voir après, puis ta. Et finalement, j'ai été à la clinique. Je suis allé dire aux gens là-bas, ben je vais rentrer dans une semaine, là, juste le temps de régler mes affaires. Puis non, rentre tout de suite, on va t'amener ton linge. Je dis non, vous comprenez pas, là. Je vais revenir dans une semaine. Tu reviendras pas, on le sait, tu reviendras pas.
Ils reviennent jamais.
Ils reviennent jamais. Ouais. Non, moi, je vais revenir. Et... parti sur le party pendant une semaine. J'ai comme fait mes adieux à ce passé-là. Et puis, je suis rentré une semaine après en clinique, qui était même très surpris de me voir. Et quand je disais tantôt que cette personne-là, à l'époque, là, j'avais été très touché de son attention, deux semaines plus tard que j'étais dans la clinique, il amenait quelqu'un pour me proposer des projets. Mais là, je suis en clinique de désintox, là. Je vois pas bien, là.
Ouais.
Puis là, tu m'amènes du monde avec des projets, tu sais. Là, j'ai compris qu'il voulait me désintox pour retourner sur scène. J'ai fait, bon, OK, ça, check.
Ouais.
Fait que ça a été éprouvant. Ça a été un deux semaines... pas mal fucké, là, tu sais.
Ouais.
Ne se désintoxe pas de tout ce stock-là qu'il veut.
Facilement, oui, c'est ça.
Ça a été bien difficile mentalement, physiquement. Je dormais plus, je faisais des cris, je faisais des convulsions, je faisais un paquet d'affaires. Et il y a même un journaliste, des journalistes qui sont venus à la clinique pour savoir qu'est-ce qui se passait avec moi.
Oh, ouais.
Et puis, il y en a un qui a essayé de prendre des photos. Quand j'étais dans la cave où on était traité toute la gang, il y avait un petit salon, on écoutait la TV. Puis là, j'ai levé les yeux, puis il y avait un gars avec son appareil photo dehors. Hey, je suis parti à courir, je dis, lui, là, c'est ce qu'il va payer toute la gang. Il va se faire avaler son appareil photo, tu vois.
Il va payer pour 20 ans.
Ça passe mal, une 35 mm, hein?
Et, c'est sauvé à temps ou
il est gros,
non,
ton
il
objectif.
S'est sauvé à temps. J'ai pas pu le pogner, mais c'est pour dire un peu. Tout, je quittais, tu sais, ça me disait, gars, tu quittes ce monde-là, c'est bien correct. Là, t'as plus besoin des autres.
Ouais.
Puis ça, ça fait 21 ans maintenant?
22 ans, oui. Ça va faire 22 ans le 23 août.
Puis combien de temps ça t'a pris après ça? Tu disais tantôt que tu as eu une période où tu faisais rien, tu n'as rien fait après.
Ben, je me cherchais un peu. Tu sais, ouais. je voulais faire de la réalisation, mais il n'y avait pas de projet qui se présentait. Fait que là, hey, veux-tu faire de la mise en scène? OK. Mm-hmm. Hey, veux-tu faire ci? OK. Hey, veux-tu coacher un tel? OK. Veux-tu écrire le number, le Cirque du Soleil? Oui. Mm-hmm. Fait que, tu sais, j'ai comme fait un paquet d'affaires, là, tu sais, sauf de la réalisation. Puis c'est pendant la pandémie que j'ai décidé de remettre sur pied comme à TV parce que j'avais eu l'idée à l'époque, il y a une vingtaine d'années.
Ouais.
Ah ouais.
Mais ça coûtait trop cher à l'époque, ouais. Les caméras, la location.
C'était parti de une vingtaine d'années. C'était quoi derrière l'idée de vouloir faire comme à TV?
C'était juste d'essayer de partir un poste Internet. Quand j'ai vu que l'Internet existait, j'ai fait « Ah, c'est bien cool, tu sais. On pourrait mettre des émissions, on pourrait tourner des affaires pas chères. » Puis ouais. Puis non, tout coûtait cher. Là, mm-hmm. Même l'Internet coûtait cher. Là.
Mm-hmm. Fait que t'as quand même un peu pensé au concept de Netflix bien avant le temps, finalement.
Ah, je sais pas. ben, en fait, de tourner des mini-séries pour l'Internet, là, c'était ça l'idée. Puis surtout avec les propres moyens, avec un autre. Puis ça m'a pris du temps avant de réfléchir à un mode d'affaires et un mode de paiement qui était le fun, mm-hmm. Autre que la subvention. Parce qu'un coup qu'elle est défoncée, ta subvention, t'as pas, tu sais, qu'est-ce que tu fais quoi, là, tu sais, il faut que t'attendes l'autre, là, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'il faut que les affaires roulent, là, tu sais. Et d'impliquer les gens qui pondent les projets puis qui veulent les faire eux-mêmes, les réaliser, les monter. C'est très effervescent comme projet. Nous autres, on veut faire vraiment, quand je dis nous, c'est moi et Sylvain Desjardins qui s'est greffé au projet il n'y a pas si longtemps. Et on veut créer un écosystème de création québécoise sur la plateforme, des gens qui vont s'entraider, des comédiens, des réalisateurs, parce que là, qu'est-ce le monde qui travaille pas, là, il y en a. Ouais. Je sais pas si vous avez vu, moi j'ai eu l'infolette de l'UDA, puis ça m'a donné froid dans le dos, là. 41% des artistes veulent se trouver une job autre que ce qu'ils font, que l'art, tu sais. Ouais. Parce que
c'est fou,
mais
ça,
il faut, il faut s'avouer entre nous autres qu'au Québec, on n'a pas les moyens de nos idées. Et c'est pour ça que tout est subventionné. On est un petit peuple, tu sais, pas un peuple de petits, mais un petit peuple. Ouais. On est 8 millions, pas tous francophones.
Ouais.
Et puis on essaye de se débrouiller du mieux qu'on peut, mais on n'a pas les moyens de faire de la télé. On n'a pas les moyens de faire de la radio. On n'a pas les moyens de faire du théâtre. On n'a pas les moyens de faire de la danse. On n'a pas les moyens. Tout est subventionné. Il n'y a aucun marché. T'sais? Sauf, il y a juste l'humour en tournée et en spectacle qui est vraiment une industrie. Le reste, là, t'sais, comme la télé, on veut faire de la télé comme les autres pays, mais ça coûte cher.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait? On est subventionné.
Ouais.
Mais ça va nulle part. Ça va dans le temps que toi, tu fais ton émission puis que ça passe à la TV puis tout ça. Mais après ça, c'est fini.
Mais toi, justement, que toutes les émissions qu'on regarde soient subventionnées, que la culture soit autant subventionnée, tu vois ça comme une bonne chose ou comme une mauvaise chose?
Non, il faut être au courant. T'sais, il faut le savoir qu'on est tous subventionnés puis qu'on on vit sur quelque chose qui c'est comme une machine à respirer, là, t'sais. On vit sur une machine, on est plugué, puis si la machine s'éteint, on est fait, là. Fait qu'il faut trouver, pour ça que quand j'ai parti comme à TV, je me suis dit, il faut faire un modèle d'affaires qui est typiquement québécois, qui va devenir typiquement québécois, qui va nous suffire à nous autres pour faire nos affaires. Puis c'est parfait parce que les gens vont utiliser ça pour se pratiquer quasiment, là, tu sais, pour faire des séries, pour voir comment ça se réalise. Mon idée, est-tu bonne? Je peux-tu faire une version 5 minutes plutôt que 30 minutes pour juste voir ce que ça donne? C'est-tu moi qui est fou? Puis en plus, il y a de la liberté de création incroyable. Ce qui fait que, tu sais, moi, pour l'avoir vécu, là, amener un projet chez un producteur qui, lui, a peur pour le diffuseur, puis que là, il te demande de modeler ton affaire pour que ça fitte avec le diffuseur, que ce soit à TVA ou à Radio-Can ou à Télé-Québec ou blablabla. Bla, bla. Et là, après ça, quand tu arrives chez le diffuseur, les autres, ils veulent le modeler pour leur clientèle, pour leurs annonceurs. après ça, un coup que c'est écrit tout ça, ben là, les avocats rentrent là-dedans. Ouais, mais ça, ça va chialer, là. La ligue des brosses à dents, là. La joke de brosses à dents, là, ça passe pas, là. Puis là, t'as les assurances maintenant. Ils font comme, non, nous autres, on peut pas assurer ce scénario-là parce que vous parlez de dentiers. Et puis la Ligue des dentiers, ça finit plus, calice. Fait que là, non, mais c'est, ça finit plus. C'est un filtre après l'autre. Fait que là, ton coefficient d'or qui était à 100% au début, au bout de la ligne, il te reste 15-20%. C'est ridicule. Fait qu'on saura jamais si l'idée était bonne.
Ouais.
A juste été adaptée.
Il n'y a plus de risques qui se prennent.
Plus rien, là.
Est-ce que... J'ai deux questions. La première, c'est... dans l'idée... Si on part de l'idée qu'on n'est pas assez nombreux pour s'autosuffire puis se financer...
Ben en fait, c'est pas ça. C'est qu'il faut trouver une façon de s'autosuffire si on est juste 8 millions.
Mm-hmm.
C'est pas l'inverse, là.
Fait que est-ce que dans ce calcul-là, dans ce plan d'affaires-là, on a un marché qui est assez grand pour être capable de éventuellement bien rémunérer ce genre de projet-là?
Nous autres, ce qu'on veut, c'est la francophonie mondiale.
Oui. OK. Ce qui est quand même énorme.
Ce qui est quand même énorme. Mm-hmm. Mm-hmm. Tout le nord de l'Afrique, l'Europe, la Thaïlande, le Vietnam. Je veux dire, tous les pays qui parlent, dont la seconde langue, mettons, est le français, ou la première langue est le français. Déjà, on a une série là, avec Laurent Renoux qui nous a mis sur Coma TV. Fait qu'on on va avoir du matériel qui va venir des autres pays aussi. Ce qui fait que on va avoir un pays virtuel. C'est-à-dire qu'au lieu d'être 8 millions, on va peut-être être 120 millions.
Ouais, c'est ça. Ce qui là est vraiment plus rentable.
Et puis, ton art va être reconnu dans d'autres pays aussi. Parce que quand tu fais de la télé au Québec, ben là, il faut que tu ailles au MIP, il faut que tu ailles vendre ta petite émission télé. Puis souvent, les gens c'est vendent pas, ouais. Ils achètent. Ils achètent des concepts puis ils reviennent. Tu sais. On l'a fait, nous autres, avec Caméra Café, il y a plusieurs années, où on a carrément pris un concept français parce que il fallait. Je suis sûr et certain que si on avait proposé un concept comme Caméra Café juste sur papier, ça ne serait jamais fait.
Ah ouais?
Mais le fait de l'avoir vu à TV, puis ah, ben ça marche. Ah, ben OK. Ah,
parce
ben,
que tu diminues le facteur risque. Là. Le risque que tu parlais tantôt, qu'il n'y a plus de risque qui se prend, c'est un concept qui a déjà été...
Ça a marché ailleurs, ça va marcher ici.
C'est un concept qui a déjà été éprouvé, comme la voix, mettons. Là.
Ouais.
La voix, c'est sûr que ça peut pas chier. Là.
Ça a pas été heureux dans tout. Là. Je pense qu'il y a certaines séries qui ont, malheureusement, c'est plate pour eux autres, là, pas marché. Là,
ils ont fait un The Office québécois. Là, job. Là,
ouais.
J'ai déjà vu les meilleures affaires que ça.
Ouais.
Il y avait des bons moments, par exemple.
Ouais,
des bons
mais Antoine, il était bon. Moi, je le trouvais bon. Antoine Vézina. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a bien du produit qui viennent de l'Europe ou en tout cas de la francophonie qui, un coup traduit, ben c'est pas, ça donne pas les résultats qu'on veut. Mais ce que je trouve bien absurde, par exemple, c'est qu'on adapte un show qui vient d'un autre pays et qu'on gagne des prix pour création ou show télé de l'année. Moi, je pense que quand tu prends un projet d'un autre pays, tu l'adaptes puis tu le fais chez vous, ça devrait être dit que c'est une adaptation puis que c'est pas un produit à 100% québécois. T'sais.
Mm-hmm.
C'est pas une idée québécoise. Mm-hmm. Moi, je pense qu'il faut mettre l'emphase sur c'est fait au Québec, créé par des Québécois, et puis voilà. Puis là, à partir de là, peut-être que nous autres, on peut l'exporter.
Mm-hmm.
Mais gagner des prêts, quelque chose qui a déjà été fait, je trouve ça ordinaire. Je trouve ça vraiment ordinaire. Moi, je me suis senti beaucoup imposteur là, quand on faisait Caméra Café, là, parce que c'était ma boîte de production qui le faisait.
Est-ce que tu écrivais aussi pour Caméra Café?
Non, je pense que j'ai écrit un sketch, c'était pas le plus drôle.
Okay.
Non, mais tu sais, quand t'as François Havard qui écrit la série, tu fais...
Je vais te laisser le faire.
Je vais me garder une petite drain. Moi, redevenir humble. non, j'écrivais pas là-dessus, mais j'avais toujours l'impression que, oui, tu sais, on faisait la télé, mais... C'est pas nous autres, t'sais. On prenait vraiment quelque chose qui venait d'ailleurs, puis qu'on a adapté, puis qu'on a fait. On n'a pas eu le plaisir de... Surtout que c'est diffusé dans 100 pays, je pense, là, ce concept-là de Caméra Café. C'est partout, là.
Ah ouais.
Avoir eu cette idée-là, moi, j'aurais été ben content.
Ben. Ouais, comme Guilla avec un gars et une fille, lui, il est ben content.
Ah oui, oui, il est bon, oui, ben oui. Avec Jean du Jardin puis tout.
Mais justement, un gars et une fille, c'est vraiment un bon exemple de création originale
oui.
qui s'exporte super bien,
oui.
qui est aussi low budget.
Oui.
Tu sais, qui est le genre de série qui se porterait super bien à une plateforme comme,
absolument.
Comme ATV. Là,
absolument. Oh, oui.
Ça, c'est-tu le genre de direction que tu veux que ça prenne? Parce qu'on peut voir déjà certaines bandes-annonces, là, tu sais, puis ça, là,
oui.
c'est un look assez simple comme ça. Là,
oui.
Tu sais, ouais.
Ben moi, en fait, j'ai tout tourné avec mon téléphone.
Oui.
J'ai mis une application dessus qui coûte à peu près 15$. J'ai acheté des petits micros Bluetooth, puis j'ai fait mes tournages avec ça. C'est la démocratisation de la technologie. Ben, regardez votre studio. Là,
ouais. Mm-hmm. Ouais,
c'est la démocratisation de la technologie qui fait que tout est possible maintenant là, sur la plateforme.
Puis est-ce que l'idée, c'est d'éventuellement avoir des productions à plus grand déploiement, à plus grand budget, puis à plus grande équipe, ou c'est de regarder ça le plus minimaliste en termes de...
Moi, je dirais, on va voir comment ça va évoluer, là. Mais c'est sûr que des séries d'une demi-heure, 13 épisodes d'une demi-heure, d'après moi, non, ça sera pas possible. Mais on sait jamais,
mm-hmm.
Parce qu'on va peut-être se mettre à faire de la production aussi, tu sais, si on est vendu dans plusieurs pays, là, tu sais.
Mm-hmm.
Alors, mais moi, ce que je favorise, c'est ce format-là, 5 fois 5 minutes. Ça s'écoute bien. En plus, on va diffuser bientôt en 4K. On va être sur les téléphones, on va avoir une application téléphone, une application pour la télé. Fait que tu vas pouvoir utiliser ta télévision 4K pour le vrai. Parce que il y a juste le soccer en ce moment.
Ouais, il n'y a pas grand chose qui est en
4K. Le soccer, on s'en crisse. Mais vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas entendu ici. Donc, je pense que ça va être un moyen aussi de rallier les deux générations. Là, les parents qui veulent écouter la TV, 4K, puis les jeunes veulent des formats courts,
mm-hmm.
Écouter leur vedette préféré, ou je sais pas, là, le humoriste préféré. Parce qu'on ne vise pas nécessairement à avoir que des humoristes. Là, on vise à avoir des gens qui sont bons, là, tu sais.
Ouais.
Fait que c'est un peu de prendre, mettons, genre de sketch ou genre de capsules qui sont faites par les humoristes, mettons, puis qui sont mis sur YouTube, mais dire, OK, au lieu de donner ça gratuitement, on va mettre ça sur une plateforme où tu peux visionner tout ça. C'est un peu ça l'idée?
C'est exactement ça. Mmh. En fait, ce qu'on demande en ce moment, c'est un format 5 fois 5 minutes. Fait que c'est une série. Ça peut être 5 sketchs différents ou ça peut être toute la même série aussi.
Mmh.
Ça, c'est le kit de départ, là, tu sais. Fait que les gens, nous, ce qu'on leur conseille, c'est de tout tourner en 4K, mais d'exporter en 1080, que nous autres, on met sur la plateforme, et on monétise leur travail. C'est-à-dire que votre série, 5 fois 5 minutes, on la met à 5,99,
mm-hmm.
et elle est en location. On la vend pas, là. Elle est en location pour empêcher que les gens puissent copier les fichiers,
mm-hmm.
pour protéger les gens. Puis ce qui est le fun, c'est que comme c'est une diffusion, ben ça peut compter. S'ils se font copier, whatever... On a la preuve, tu sais, que ça a été diffusé. Puis ton coefficient d'or, comme je disais tantôt, il est pas mal à 100%.
Ouais.
Si t'es content
ouais.
comment c'est écrit puis que c'est réalisé, on est content pour toi puis on va le diffuser, là, tu sais. Alors, quand tout ça est prêt, c'est soit que les gens louent par émission ou forfait par mois ou par année. Puis là, on s'en vient qu'un forfait à vie aussi bientôt,
ouais.
qui est plus un forfait, mettons, fondateur là, t'sais, de la plateforme. Là, dans les prochains mois, je fais beaucoup de développement. Là, beaucoup, mm-hmm. beaucoup, beaucoup de développement. Il y a beaucoup de monde qui m'appelle. Je suis bien content qu'ils veulent prendre contact avec moi pour me proposer des affaires. Puis franchement, là, je dirais qu'à 90% du temps, c'est vraiment bon. C'est ça la différence un peu avec la télé. C'est que la télé va refuser ton projet pas parce qu'il est pas bon, c'est parce que ça ne fit pas.
Ouais.
Ouais.
Puis on travaille à l'envers, je trouve. C'est-à-dire que avec la télé, là, ben, dis-moi donc ce que tu veux. Moi, t'as de l'écrire, moi. Tu sais, mm-hmm. dis-moi donc, là, toi, monsieur Antenne, c'est quoi tu veux comme projet?
Monsieur TVA.
Monsieur ouais. TVA ou monsieur Radio-Can ou madame, tu sais, whatever, là, tu sais. Parce que là, ils sont comme, tu sais, ils prennent les projets. Ouais. Moi, non.
Ouais.
Ben, à coup qu'ils disent, non, c'est fini, là.
Ouais.
C'est fini.
Mais là, ça devient ultra clientéliste, comme, tu sais, qui a plus flexible, c'est ça, on va écrire telle série.
Ouais.
Mais tu sais, dans un sens, Netflix fait un peu ça aussi dans leur production originale. C'est comme, ils font plein d'affaires, au moins qu'il y a une diversité, sauf que ils savent qu'ils ont tel type de... Ils ont toutes les données de tout le monde. Ils savent qu'il y a tel type de spectateurs qui trippent sur tel acteur, qui trippent sur tel sujet. Donc, on va faire une série sur mesure pour lui. T'sais.
Mais dans les documentaires, ils sont forts aussi, Netflix, ouais, je trouve. Ils vont te faire un documentaire sur les gens qui jouaient à l'époque aux machines vidéo, les premiers à faire des concours, à faire la même, puis ça devient hyper intéressant. Ou ils te font un reportage sur le Lego, ou ils te font un reportage sur les portefeuilles. Mais tout est bien fait, c'est bien raconté. C'est quasiment de la qualité de BBC là, quand on regarde ça.
J'ai l'impression que des grosses plateformes comme ça, ils fonctionnent vraiment avec... c'est leur coup de circuit qui finance le reste. Là, je suis en train d'écouter une série justement sur Netflix qui s'appelle Last Chance You. Fait que c'est comme des athlètes universitaires qui n'ont pas réussi à rentrer dans des gros collèges, fait qu'ils rentrent dans des collèges publics, tu sais.
Oui.
Puis là, ils essayent de, à travers 2 ans de collège public, gagner une place puis un scholarship, fait qu'un des bourses pour aller dans un gros collège, tu sais. Puis c'est 8 épisodes de 1 heure qui suivent une équipe, mais c'est réalisé, là, c'est fou la qualité de cette chose-là. Ouais. Là, on dirait que c'est scénarisé, puis ça a dû coûter là, des millions de dollars pour faire ça. Des millions et des millions. Puis, ils ne doivent pas être rentables avec ça. Parce qu'il n'y a pas assez de monde qui vont l'écouter sûrement, cette série-là, tu sais, parce que ça a dû coûter trop cher pour ce que finalement un documentaire qui suit une équipe de basketball étudiante, là, tu sais. Mais c'est sûrement leur gros, gros blockbuster qui amène vraiment du monde vers la plateforme.
C'est combien par mois, Netflix? C'est 20$, je pense?
Genre 12-13$, je pense.
Ouais, c'est peut-être monté à 15. Mettons entre 12 et, entre 12
mettons
et 15.
15,
ouais,
mettons 15. Je veux dire, avec combien de millions de...
Eux autres, ils touchent du monde partout dans le monde, je veux dire.
Ben, c'est ça.
C'est ça la différence, la difficulté de faire de quoi... En français, là, tu sais, c'est un méchant défi, mais tu sais...
Oui, absolument, absolument. Je veux dire, c'est sûr que... Non, il faut faire de quoi, parce que là, il y a comme un... Là, c'est catastrophique, ce qu'on vit, là, en ce moment. La pandémie, le virus, tout ça, c'est une catastrophe. On s'en rend peut-être pas compte, là, mais quand on va en parler dans 10 ans, on va se dire, mais ça n'a pas de bon sens. Là. Tu voulais aller au dépanneur, il fallait te mettre un masque, laver les mains, faire bouillir tes bottes 20 minutes. Tu sais, là, un moment donné.
Tremper les pieds dans l'eau chaude.
Exactement, tu sais. Fait que, mettons que. Alors, il faut faire de quoi? Il faut faire travailler ces gens-là. Il faut leur trouver de la job, les comédiens, les réalisateurs, les soundmen, les accessoiristes, les maquilleurs. Name it, là. Il faut que les gens travaillent, tu sais. Puis, je veux dire, c'est ce qu'il y a de plus valorisant, à quelque part, là, d'avoir une job, puis de travailler, puis de faire ce que t'aimes, là, tu sais. C'est bon pour l'esprit, là.
Ben oui, mais ça. Mais
l'Internet vient tout brouiller les cartes, tu sais. On avait, tu sais, la télévision fonctionnait d'une certaine façon. Que, tu sais, les codes d'écoute étaient là. Tu sais, mettons, je regarde, mettons, Star Academy, tu sais, mettons, la nouvelle version. Puis j'ai l'impression, puis là, je connais pas les chiffres, mais j'ai l'impression qu'ils essayent de faire ce qu'ils faisaient dans le temps. Avec une fraction du budget, ou du moins, tu sais.
Puis
les licences sont de moins en moins grosses, oui.
Parce que.
Probablement le corps des spectateurs.
Mais c'est ça, parce que
Faut des bons réalisateurs pour te faire croire que c'est des gros shows, là.
Puis dans le temps, je veux dire, tout le monde écoutait à la télé. Là, on a une génération complète qui n'écoute plus à la télévision pantoute, qui regarde des affaires sur YouTube. Puis là, c'est OK, comment qu'on réussit à que les artisans de ce médium-là gagnent leur vie, tu sais, puis comment qu'on continue, tu sais, dans l'ancien système avec les publicités, je voudrais pour le meilleur et pour le pire, mais tu sais, qui fonctionnait, puis on avait des belles productions.
Moi, je pense que c'est l'abonnement. Je pense que c'est l'abonnement, ça passe par là. Puis si tout le monde s'en va sur Internet, allons-y, là, tu sais. C'est juste que l'affaire, c'est que je trouvais qu'en début de pandémie, mes chums, là, tu sais, humoristes ou acteurs, whatever, allaient chacun de leur bord. Moi, m'aller là, YouTube, là, tout le monde est éparpillé, me dire, Chris, c'est plate. Tout ce talent-là qui est en train de s'en aller, pourquoi qu'on fait pas tout à la même place pour mm-hmm. qu'un genre de YouTube, là, mais Netflix, mm-hmm. où tout le monde va converger pour dire, bon, ben là, si tu veux voir tes humoristes préférés, ils sont là. Tu as juste à aller là, puis il y en a plein d'autres. Tu n'es pas obligé de juste aller fouiller dans YouTube ou fouiller dans Patreon ou fouiller dans Vimeo ou fouiller dans une autre affaire, Facebook, tu sais, là, mm-hmm. Instagram, Snapchat, tabarnan, tu sais. Ouais. Si tu vas voir là, tu verras pas ce qui se passe là, là, tu sais. Tandis qu'à Comet TV, si tu vas là, tu vas voir ce qui se passe, là. Tu vas avoir une liste de gens, là, tu sais. Parce qu'on va pas juste faire des émissions de télé, là, on va faire des mini-séries. Mm-hmm. On va faire aussi du streaming, on va diffuser du film, on va diffuser des shows live. Mm-hmm. Tout ça s'en vient, là, tu sais. On va mettre plusieurs arc à notre corde à notre arc, ouais. mm-hmm. pour justement attirer tous ces gens-là, la vente de DVD, patati et patata. Là.
Puis, admettons que tu as, tu sais, des... Je vais prendre un exemple simple, là, des humoristes de la relève qui décident de mettre de vous approcher pour mettre leur spectacle, leur captation live. Là,
oui, oui.
Puis que là, tu as, mettons, une personne comme Sam Breton qui va amener beaucoup, beaucoup d'abonnés à la plateforme, probablement mm. avec son spectacle. Là, je dis ça, j'ai aucune idée si Sam Breton il veut faire un one-man show filmé. Non, là, non, c'est vraiment pas ouais. ça. Puis tu as un autre humoriste un petit peu moins connu qui a aussi son show sur la plateforme. Puis là, moi, mettons, je m'abonne. Pour par mois, tu sais, sur la plateforme.
Oui.
Est-ce que après ça, les revenus sont divisés selon le nombre
au prorata
du nombre
oui.
d'écoutes,
fait que, oui, à ton temps d'écoute.
Fait que
oui.
c'est bénéfique pour tout le monde au sens où absolument. Quelqu'un qui amène beaucoup de monde va recevoir de l'argent, mais quelqu'un qui amène moins de monde un peu va aussi bénéficier.
Oui.
Des écoutes puis des abonnements de quelqu'un d'autre.
Là. Oui, absolument.
Ouais.
Oh, oui.
Fait que ça, c'est super intéressant. Puis je t'entendais dire.
Et c'est un 70-30.
Ouais, c'est hein. ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire.
Quand tu loues à la pièce, mettons, à l'émission, mm-hmm. Mettons, il y a une pièce qui rentre, ben, tu as 30% qui s'en va à, comme à télé, comme plateforme, marketing, soutien, ouais. Technique, nanana, équipe, tout. Mm-hmm. puis 70% des profits vont. À la personne qui produit son
émission. Ce qui est énorme.
Ben, ce qui est énorme. Ouais. Oui, absolument. Mais en même temps, c'est quand même eux autres,
ben non, mais c'est qui
le font. Là. Fait que,
ça c'est quelque chose.
J'aurais bien aimé ça à l'époque, moi, que ce soit.
Ben non, mais c'est ça. Parce que c'est quelque chose dans ton livre, je pense, que tu mentionnais que toi, t'étais avec. Juste pour rire, là. Bon.
Pédophile.
Gilbert?
Non, pas Gilbert.
François Rozon?
T'étais avec François Rozon,
oui.
Hein, puis,
oui.
Puis tu disais dans ton livre que le split était 50-50.
Oui.
Mais ça c'est démesuré, là.
Ben, dans un cadre de spectacle live sur scène, coproduction, il n'y a pas de trouble. Mm-hmm. Mais sur tout, là, ça ne marchait plus, là. Parce que, tu sais, je faisais... À un moment donné, j'étais tellement tanné là, de donner toute la moitié de ce que je faisais. Mm-hmm. À un moment donné, je me rappelle... J'avais comme une semaine de vacances. Et là, mon gérant à l'époque m'appelle, puis il dit « Ouais, ben là, il y a telle compagnie de pétrole là, qui aimerait ça t'avoir d'une pub, nanana. Mm-hmm. » Alors je disais « François, j'ai une semaine, là, peux-tu me reposer, là, tu sais? » Puis, ben, c'est quand même 350 000, là.
Mm.
Ils ont un pi.
350
000. Fait que là, je dis pi. Ben, c'est beaucoup d'argent. Puis là, dans ma tête, je me suis dit, c'est pas 350 000. C'est 350 000 divisé par deux, mm-hmm. redivisé par deux.
Ouais. Ouais.
Parce que ma cote, elle s'en va au gérant, puis l'autre, ça s'en va aux impôts. Mm-hmm. Fait que 350 000, ça fait 175 000, je pense, par deux.
Ouais.
Puis combien divisé par deux? Mettons 180, ça fait 90 000.
90 000 ouais.
Fait que c'est 90 000, c'est pas 350, là. Venez pas me faire à croire que c'est 350, c'est 90 000, c'est quoi, là, cette maladie mentale-là? Fait que je dis non, je suis plus capable. Il faut que je prenne des vacances. Puis, tu sais...
Ouais, parce que lui, il veut pas
que
c'est 190
000, tellement...
lui.
Ouais, ouais.
C'est ça. Ouais,
mais c'est tellement
lui,
décourageant.
Il y a pas 50 qui s'en va à l'impôt, là.
C'est tellement décourageant de travailler de même là, ouais. que tu as toujours 50 % qui passent sur tout. Un essayage de costume, tu es payé 150$, 75$ au gérant.
OK, fait que tu allais sur un show de TV, peu importe ce que tu faisais.
Peu importe. Pub, émission télé, film, la série britannique que j'ai tournée, Jules Verne. Il me payait comme 450 000 $ pour l'année. Ben, il y en a la moitié qui partait, puis l'autre moitié qui partait. Mm-hmm. À un moment donné, c'est décourageant. Quand tu as un agent, il va prendre entre 10 et 15 %.
Ouais.
Pas mm-hmm. Des fois 50. 20. Tu comprends? Lui, c'était parti, là, c'est 50 sur tout. Mais j'étais tellement cave à l'époque. Il y a beaucoup de ma faute là-dedans. Ouais. Là, j'avais personne à me protéger, moi, parce que comme il est ton gérant producteur...
Mais tu penses que c'est eux qui te protègent?
C'est ça. Il y a où la personne qui me protège là-dedans? Parce que je suis pas sûr qu'en tant que gérant, tu laisserais un autre producteur prendre 50 % de mes affaires. Là.
Non.
Tu sais, ça aurait pas de sens, n'est-ce pas? Mais c'était une conversation de sourds. Mais j'ai abandonné beaucoup aussi à cause de l'abus.
C'était avec qui qu'on parlait de ça? Je pense que c'était avec Marie-Lou qu'on parlait de ça. Tu sais, qu'elle, super jeune, elle a un gros succès, puis elle avait la grosse équipe. Puis tu sais, elle disait, les gens qui sont supposés me protéger...
Ouais.
C'est aussi les gens qui me poussent à en faire plus parce qu'ils ont une part du, oui, ouais. du gâteau. Fait qu'il y a vraiment un conflit d'intérêts là, là-dedans. Ouais, là,
oui, bon, il faut qu'ils payent leur deck après leur piscine. Puis il faut qu'ils payent. Ouais. Moi, j'ai besoin d'un cabanon. Fait ouais, que ouais. tu vas faire le show de juin.
T'as-tu l'impression aujourd'hui, mettons, avec ce que tu fais, que tu fais enfin mais ce que tu as tout le temps voulu faire, finalement, qui était plus un job de derrière
écoute,
la caméra?
Je suis. Écoute. Tu sais, quand tu dis le malheur des uns fait le bonheur des autres, là, ouais. moi, je suis un poisson dans l'eau. Là. Je suis à la maison, mm-hmm. je fais mes petits tournages, je mets ça dans mon iMac. Hein, ouais, je fais du montage, je découvre des logiciels, j'ai du fun au bout. Ça me tient le cerveau vraiment bien occupé.
Ouais.
Ça peut pas être mieux là, pour moi là, mm-hmm. et pour l'isolement, puis tu sais, la pandémie, oui. tout ça. Je suis dans le meilleur scénario pour m'en sortir. Là.
Ouais.
Ouais.
Ah, merveilleux.
Puis, mais est-ce que malgré tout, ça reste difficile, j'imagine, comme tout le monde, le confinement? Là, j'imagine ben que oui. pour tout le monde, c'est, on a envie que ça finisse au plus crisse.
Ah, ben oui. Puis, tu sais, quand, mettons, tu as un projet, puis la personne te dit dans 4 mois, faut que tu livres le projet, ben tu gères ton temps pour 4 mois, ouais, ton énergie et ton temps. Mais là, on ne sait pas. Ouais. On ne sait pas quand
on
ça va
se doser, là.
Fait que là, tu sais, c'est quoi le... Qu'est-ce que je fais, là, en attendant? Je mets-tu bien de l'énergie là-dessus, puis après ça, bien de l'énergie là-dessus, puis je me... Là, les gens s'éparpillent, ici, puis ça cherche, mais ça crée des angoisses, des états de panique incroyables. C'est sûr, c'est qu'on a tout... On a toute envie que ça finisse au plus vite. Ouais. Puis le monde est vidé, là. Ils sont vidés, puis t'as rechargé dans ce temps-là. C'est pas facile, là.
Ouais, comment tu fais?
C'est là, ça, tout le monde tête après le même toton, là, tu sais. Je veux dire, PCU, PCRE, puis essayer de rejoindre en plus, c'est impossible. C'est l'enfer, là. C'est l'enfer. Mmh. Puis comment s'entraider, puis comment, tu sais, les zones oranges, les zones rouges. Hey, là, quand moi, j'ai des zones rouges, je me gratte, je me crème, tu sais.
Ah, écoute, c'est
compliqué, on sait plus qui écouter, tu sais. Ouais. Là, c'est dans quelle région, là? Mais là, j'ai-tu le droit, là? Mais là, faut que tu mettes un masque, en fait? Mais mets-tu des gants quand je pisse? Non? Tu sais, j'ai-tu le droit après 9 h? Non, c'est avant 9 h. Fait qu'il arrive à 6. Non, moi, je pars à 7. Ah, tabarnak! À moi, c'est, pour un dyslexique, c'est pas facile.
Ouais. C'est ça que tu disais, je me rappelle plus parce que tu disais ça, tu disais que t'étais dyslexique et TDA, là. Fait que ça faisait.
Ah, c'est l'enfer!
C'est déconcentré, là.
Ah, c'est du déconcentré, trempé dans le déconcentré, là. Moi, je suis TDAH. Alors, travailler, tu sais, dans un computer, tout ça, je suis ouais. OK, là, je vais aller là. OK, là, je vais aller là. Je vais aller là. Mais je suis dyslexique, je suis pas capable d'apprendre des textes, je suis pas capable de lire, sauf des scénarios, ce qui est un miracle. Okay. Mais lire un livre, là, je lis 2 lignes, puis qu'est-ce que je lisais? Puis là, faut que je revienne la page avant, puis là, tabarnane, je suis pas capable de lire, tu sais.
Ouais.
J'ai un trouble vraiment de déficit d'attention, puis la dyslexie, ça aide pas du tout. Là. J'apprends avec des couleurs. Quand je fais mes montages, là, je vais mettre la première ligne verte, après ça, j'en mets une rouge, puis là, je me rappelle que le orange, parce qu'il portait du orange. Hey, c'est compliqué mon affaire. Mais en même temps, tu sais, faut que tu te débrouilles là-dedans, là, tu sais.
Ouais.
Ça répond-tu à la question?
Ben non, c'était pas une question, c'était plus une observation.
Ah, OK.
Puis est-ce que, j'imagine que ça, c'est si t'es pas capable d'apprendre des textes, j'imagine que c'est une des raisons pourquoi tu fais pas de texte. T'as jamais fait de texte, là, tu sais?
Ben, j'ai jamais eu de blanc de mémoire en faisant mes sketchs, c'est là. Ça. Mais apprendre, là, c'est moins pire aujourd'hui. Mais quand je faisais, mettons, les bye-bye, puis que je faisais Vrac la vie, c'était une hantise.
Ah ouais.
Un mois d'avance, là, j'étais comme ça, ça rentrait pas dans ma tête. J'ai répété, je me trompais tout le temps. Je suis une fou, là, tu sais, à pas être capable d'apprendre mes textes. Mais ça, c'était un peu le trac aussi qui faisait que...
Ouais.
Mais là, il est arrivé un miracle dans ma vie. Bon, une bonne nouvelle.
Yes!
À quelle caméra, celle-là? Bonne nouvelle. ça, c'est la mienne. Ouais. c'est que... Moi, le trac, ça m'a toujours... empêché de faire de la scène. Sauf que là, je suis allé voir un hypnotiseur. Et puis, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a comme fait, c'est comme s'il avait fait un copier-coller de comment je me sentais au début de ma carrière, puis qu'il l'avait collé aujourd'hui.
Okay.
Et ça n'a pas marché tout de suite, ça a pris du temps, puis à un moment donné,
ça fait combien de temps,
le track a complètement disparu. En fait, je m'en suis aperçu quand j'ai fait Les Oliviers. J'allais présenter un prix pour Capsule Radio, je ne sais pas trop. Puis j'avais dit au gars, « Hey, mais moi, t'as pas du texte. Là, juste dire, alors le prochain. » J'étais bien nerveux. Puis finalement, j'étais comme backstage. Puis c'était à moi d'aller présenter le prix. Puis OK. Pas puis j'avais déjà mon gag de préparé là, pour quand j'arrive au micro. Puis... vous allez comprendre après pourquoi c'était pas le meilleur gag. et j'étais derrière, puis là, quand ils m'ont annoncé, j'étais pas nerveux pantoute. J'ai eu comme une excitation, tu sais. Puis là, j'avais ma ligne en tête, parfait, là, ça se lève, cette affaire-là. Mais là, j'arrive sur scène, tout le monde se lève debout. J'ai comme un... Mais je sais pas pourquoi. Fait que là, ils sont debout, mais moi, j'ai ma ligne, là, qu'il faut que je dise, là, que... Fait que là, pendant qu'ils sont debout, ben, je sais pas trop quoi faire sur stage. Mais ce qu'il fallait que je fasse, c'est de donner l'impression que j'avais envie d'aller aux toilettes, tu comprends? Mais... Fait que là, je faisais comme si j'avais envie d'aller aux toilettes. Puis là, tout le monde était debout. Puis là, quand ils se sont rassis, là, j'ai compris qu'ils me faisaient un standing ovation pour tout ce qui m'était arrivé dernièrement, les aveux sur telle affaire, puis le livre, puis ma maladie, puis tout ça.
Juste le fait de te voir sur une scène, de revoir sur une scène.
C'est ça. Fait que, et ma ligne, c'était, bon, on va faire ça vite, parce que j'ai un petit problème de diarrhée. Alors, les nominés, ça, mais tout de suite après un standing ovation, tu sais.
Écoute,
c'est la pire phrase que je pouvais dire.
C'est ça.
J'aurais pu changer d'idée et dire merci beaucoup, mais pourquoi j'aurais fait semblant d'avoir envie d'aller aux toilettes juste avant? Hey, là, ça se battait dans ma tête. Là. Dis pas ça! Oui, dis-les! Non, dis pas ça! Alors, c'était vraiment quelque chose. Là. Mais.
T'es pris avec ton gag. C'est tellement drôle d'imaginer.
Ah, j'étais pogné. Je suis
prisonnier
ça,
avec le fait qu'il faut que je dise
grand texte. C'est ça, j'ai pas le choix.
Ça fait trois minutes que je fais comme si j'avais envie d'aller chier. Là, j'ai pas
le choix. Moi, je répète ma ligne. Je peux pas ne pas la dire.
Oh, hey,
c'est bon. Mais, fait que l'hypnose, c'était en quelle année? Puis les Oliviers, c'était en quelle année?
Ben là, ça remonte à il y a 3 ans.
OK.
Après, les Oliviers, l'hypnose, c'était 4 ans.
OK. Puis vous là, 4-5 ans, t'as refait le numéro du batteur.
Du batteur, ouais.
Ouais. Puis avant de le refaire, t'avais-tu le même track que t'avais dans le temps?
Oui.
Ou t'étais... Ouais, ah ouais, okay. Ah ouais.
J'ai failli pas monter sur scène.
Fait que t'as pas de
parce
fun.
Parce que t'as peur que quelque chose qui, de qui mal arrive, ouais. va se passer, va arriver, tu sais.
Okay.
Que les gens t'aimeront pas ou...
Puis la dernière fois que t'avais monté sur scène avant ça, ça s'était mal fini, tu sais.
Je me rappelle pas. Je pense que oui, ça doit. Ouais.
Et fait que t'as pas eu un genre de crime finalement à cette heure. J'ai du fun.
Non, cette fois-là, ça s'est passé vraiment différemment.
C'était un gala, juste pour.
C'était avant, là. C'est au Comédia.
Ouais.
J'avais peur qu'il se passe de quoi de pas correct. Puis effectivement, il s'est passé de quoi de pas correct. Qu'il a fallu que j'aille sur scène dire aux gens, OK, c'était un mauvais départ. J'ai pas entendu le click track en arrière. Fait qu'on va le refaire. Fait que je vais ressortir. Faites comme si rien s'était passé. Mais j'étais nerveux, là. Je leur parlais, j'avais le micro dans les mains de même. Et puis, ce qui fait que quand j'étais derrière, moi, habituellement, j'entends 4, 3, 2, 1, puis là, je rentre.
Ouais.
Mais là, le 4, 3, 2, 1, j'ai jamais entendu. Fait que j'ai commencé à entendre les pas. Je fais ah non. Ouais. Ah non, je suis rendu sur scène. Ouais. Où c'est que je suis? Où c'est que je suis? Et puis, c'est là que j'ai dû rentrer sur scène et dire, bon, ben on va le recommencer. Là, excusez-nous. Ouais. Non. Fait que là, je l'ai refaite, mais d'un, plus en forme, pas en tout.
Ouais.
Deux, j'avais vraiment besoin de caleçon propre après. Et trois, m'a trouvé quelque chose.
Ouais.
Et donc, ça a été très, 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 très difficile. Puis quand je suis sorti de scène, là, j'étais là. Mais je l'ai faite pour ma famille.
Okay.
C'est-à-dire que mes neveux et mes nièces m'ont jamais vu sur scène.
Mm.
Et ils sont tous montés de Montréal pour venir voir mon oncle sur un stage. Parce que quand j'étais sur scène, c'était tous des bébés.
Ouais.
Fait que je dis, bon, je vais le faire, tu sais, je vais les inviter. Puis, je l'ai fait, mais tabarnak, je me suis dit après, mais plus jamais. Puis là, il est arrivé l'affaire des Oliviers où j'ai fait, il y a quelque chose qui s'est passé là.
Ouais.
Mm. Puis l'année d'après, Sylvain Parent-Bédard, il me dit...
ça, c'est l'année passée ou là, 2 ans?
Je suis pas bon dans les dates, mais je pense que c'est il y a 2 ans.
Mm-hmm.
Il m'a demandé si je voulais faire un numéro avec Kev Adams. En fait, Kev Adams voulait faire un numéro avec moi, le français Kev Adams. Et je dis, ben oui, OK. T'sais. Fait que là, j'ai écrit un numéro, on l'a répété, tout ça. Mais c'était la première fois que j'écrivais quelque chose, surtout que j'écrivais pour deux. Ça s'est super bien passé. On a eu du fun au bout, on a eu des faux rires, on a eu, tu sais, il y avait un rythme dans la salle que je retrouvais, puis j'ai vraiment eu du fun cette fois-là, là, tu sais, mais détendu, puis bien relax, puis alors ça a été une maudite belle expérience. Puis depuis ce temps-là, si j'ai un ami, mettons, là, Martin Petit, mettons, il me dit, on fait un sketch, whatever, ça te tente-tu? Bon, ouais.
Fait que c'est plus la scène, c'est plus un nom catégorique. C'est comme, why not?
Ça, je te dirais que écrire un show, partir en tournée, non, ça c'est fini.
Mm-hmm.
Un festival, on fait un number, on va avoir du fun. Puis après ça, je vous regarde aller prendre une bière. Pas de trouble. Je vais le faire. C'est avec des amis, on me paye l'hôtel. Tu sais, la vie est belle, là, tu sais.
Mm-hmm.
Sporadique comme ça, c'est le fun.
Ouais.
Mais partir en tournée, là, non.
Ça doit être une libération de ne plus avoir cette malédiction-là du track.
Ah, c'est une libération, mon gars. Là. Ouais, il n'y a pas de mots. Là. Parce qu'à un moment donné, tu penses que tu n'y arriveras plus jamais,
mm-hmm.
qu'il n'y a pas de solution. Et puis, c'est drôle parce que j'en parlais avec Norman Brathwaite il y a 2 étés, je pense. Oui, ben c'est l'été de Kev Adams. J'allais faire une émission, puis il était là, Normand. Mais Normand, ça, c'est le genre à vomir d'un toilette avant de monter sur scène.
Mm-hmm.
Puis j'y ai parlé de ça. Je dis, hey, j'ai été hypnotisé, moi aussi. Puis, faudrait que j'essaye ça. C'est une mauvaise imitation, là.
Faudrait que j'aille ça.
Non, attends un peu.
Attends.
Parle comme un canard. Ah, Chewbacca, comment vas-tu? Chewbacca qui vient d'avaler un vibrateur.
Hey, t'es bon Chewbacca.
T'es vraiment
t'es un bon Chewbacca.
Chewbacca.
C'est
manque
bon.
Juste
c'était
le Chewbacca, poil. C'était pas Jar Jar Binks qu'il fallait que tu fasses, c'était Chewbacca.
Ouais, exactement. J'aurais dû y proposer ça. Hey, il y a quelqu'un qui m'a envoyé quelque chose. Un gars qui avait un livre sur George Lucas. Et George Lucas parle de moi dans son livre.
Ah ouais?
J'en revenais juste pas.
Ben, toi, tu t'es fait proposer de jouer Jar Jar Binks, justement.
Oui.
Mais Jar Jar Binks aurait été écrit en pensant à toi.
Non, pas ça non plus. J'allais là pour développer le personnage. Soit comment il marche, comment il parle, comment... T'es comme un peu un marionnettiste, là.
Ouais.
Et puis là, il fallait essayer plusieurs techniques là, pour pouvoir... Parce que lui, ce qu'il voulait faire, c'est tourner Star Wars... et me mettre avec les autres comédiens, mais mettre un suit pour qu'après, lui, il puisse mettre Jar Jar Binks par-dessus. Tu sais.
Ouais.
Mais on a tout essayé, puis ça ne marchait pas. Aujourd'hui, c'est facile. Là.
Ouais.
Mais à cette époque-là, là, ça ne marchait pas. Je te parle d'il y a plus que 20 ans.
Mm-hmm.
Déjà. Ouais,
et, l'épisode sur la menace fantôme, c'est un bout.
Mais comme, mais comme Jar Jar Binks mesurait 6 pieds et je sais pas combien, moi, de mon 5 pieds 6, je faisais pas la cote. Fait qu'ils ont dit, bon, ben, désolé, on pourra pas te prendre parce que... Okay. Mais ils m'avaient dit que j'avais le rôle, mais j'étais trop petit. Fait qu'ils ont pris un autre acteur.
T'as fait le développement du personnage, mais finalement, ça n'a pas été toi.
Exactement.
Le stand-in. Ah ouais?
Est-ce que t'as encore, mettons, tes numéros que t'as roulés tellement de fois, là?
Oui.
Serais-tu encore capable de les faire là, sur un claquement de doigts ou faudrait que tu les révises?
Le batteur, quand je l'ai refait, j'avais fait une nouvelle version, tu sais, pour pas que ça soit plate pour tout le monde. Je sais pas, tu as la mémoire physique. Là. Mm-hmm. J'imagine qu'il y en a certains que je pourrais refaire. Il y en a un que c'est quasiment impossible. Là. C'est le numéro du bureau là, qui est sur le Boléro de Ravel. Là. Ça, c'est extrêmement compliqué, puis je sais même pas comment j'ai fait de faire ça. Je l'ai fait avec François Pérusse, d'ailleurs. C'est lui qui a fait la trame sonore.
Ah ouais?
Je pense que c'est le seul numéro que je serais pas capable de faire. Le reste, que ce soit la claquette... C'est sûr qu'au niveau physique, là, la claquette, tu veux mourir après. Là. Mm-hmm. Le drum, c'est épuisant aussi. Ouais. Le bureau, c'est moins épuisant, mais c'est très compliqué. C'était quoi les autres numéros?
Le golfeur.
Hein?
Il y avait le golfeur que tu faisais souvent?
Le golfeur, mais ça, c'était pas si pire. Ouais. Tout, c'est comme le samouraï, l'haltérophile, l'américain. Ça, c'est toutes des affaires. C'est surtout les numéros avec les bandes sonores qui étaient comme bien exigeants physiquement. Ouais. Surtout la claquette. Je commençais le show avec la claquette. Je sais pas pourquoi.
Un bon warm-up.
Un bon échauffement. Mais je faisais un numéro du numéro, c'est-à-dire que je faisais la claquette, puis après ça, pendant une minute, je jouais au gars qui était essoufflé, qui venait de faire la claquette.
Puis souvent, c'était facile de le faire, c'est
mais
ça.
C'était vrai. Fait que peu importe ce que je disais. J'en profitais parce que là, il fallait que mon cardio baisse pour faire la suite du show. Là. Mais je trouvais que c'était tellement un bon numéro pour commencer le show que je l'avais laissé là. Je pourrais revisionner mes sketchs. Puis, parce que là, c'est pas un scoop, là, je l'ai dit déjà une couple de radio, là, une couple de podcasts aussi. C'est que j'ai un projet avec Comédia, avec Sylvain Parent-Bédard. Pour justement remettre ces sketchs-là sur scène avec d'autres humoristes.
OK.
Donc, moi, parce que je ne serais pas capable de faire un show d'une heure et demie de moi, là, non, je ne serais pas capable. Fait que on prend plusieurs humoristes que je vais leur montrer comment faire les sketchs, puis on met ça sur scène, on va partir en tournée. Mais moi, je partirai pas en tournée. Là, mais...
Fait que les numéros continuent de vivre par eux-mêmes.
Exactement, ça... C'est comme si le catalogue allait se promener. Là.
Ouais. C'est vraiment un cool projet.
Oui, parce que ce qui est le fun, c'est que je peux le faire. Si je faisais une heure et demie de stand-up que je faisais faire par d'autres personnes, ça marcherait peut-être, là, mais tu vas où après? Là, au moins, avec ça, on peut se promener pas mal partout. Là,
c'est assez rare, par contre, ce style-là vraiment physique, surtout, j'ai l'impression, maintenant.
Ben, ce qui était rare, là, c'était pas tant le style physique que la quantité. Parce que je connais beaucoup de clowns, de cirque, tout ça, mais ils ont un number.
OK.
That's it. Mm-hmm. Ils n'ont jamais rien écrit d'autre ou ils vont mettre un an à écrire quelque chose de nouveau. Une affaire de 4-5 minutes, mais un show de 2 heures, juste du monde visuel, ça se faisait pas.
C'est du stock.
Ça se faisait pas. Fait que c'est pour ça que j'ai pu, j'imagine, tirer mon épingle du jeu. Là. Ouais. Puis moi, je compare toujours ça un peu à... J'ai comme fait ma place par le silence, tu sais. C'est un peu comme quand t'es dans la cuisine, en train de couper tes légumes, t'écoutes la TV, puis à un moment donné, il n'y a plus de son. C'est comme... Tout d'un coup, tu es attiré par la télé.
Là, tu le remarques, il y avait du bruit, puis avant, tu le remarquais pas.
C'est ça, tu sais. Alors, j'ai eu l'impression que mon silence a fait du bruit dans la communauté, puis que ça a attiré beaucoup les gens. Pardon. Ça a attiré beaucoup les gens. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière.
Mm. Mm. Tu parlais, je pense que c'était à sous-écoute que tu dis que tu as eu la chance de rencontrer tous ceux qui t'ont influencé. Là.
Oui, oui. Puis, ah, ça a déjà passé.
Non, okay. Mais il l'a mis sur, sur Patreon, je pense. Là. Okay. Je l'ai écouté cette semaine. Puis, tu dis avoir rencontré Jim Carrey.
Oui.
Puis, comment ça a été cette rencontre-là? Parce qu'il y a quand même...
Une parenté.
Oui, il y a quand même une parenté dans ce que tu faisais puis ce que Jim Carrey faisait, tu sais, des grimaces puis des mouvements un peu, comme j'ai tantôt, désarticulés puis tout ça.
Oui. Lui, c'était surtout le faciès. Moi, ouais. J'étais médusé.
Ah, il était incroyable.
Parce qu'il fait pas de grimaces comme tel. Il est capable d'imiter une face.
Oui.
Tu sais, quand il fait Clint Eastwood...
Ah, c'est débile. Ou, quand il fait... Ça n'a pas de sens.
Il transforme
quand...
la face, t'es là. Ben, voyons donc. T'sais.
On dirait que tous ses muscles sont capables d'être indépendants. Là.
C'est hallucinant. C'est ouais. Vraiment hallucinant. Quand il fait James Dean, quand il fait Khrushchev, quand il fait... écoute, c'est... quand il fait le gars de la petite maison dans la prairie, c'est... Moi, je l'ai vu live à Los Angeles, OK? Au Comedian Magic Club.
En quelle année, à peu près?
Ce que je savais pas, c'est qu'il m'avait vu avant.
OK. Ah. Oh.
Et moi, je faisais...
On est dans quelles années, là?
Oh mon Dieu, 89?
OK, fait que lui, 88. Il fait pas encore de film, là.
Il venait de faire, je pense, Earth Girls Are Easy, qui okay. Est des genres de vampires de l'espace, qui est une comédie, là.
Fait qu'il a pas fait les gros films encore, là. Il s'est
pas
là,
vraiment vanté, là. Ben, c'est pas grave, tu sais. Mais ouais. Il était dans...
Girl from Earth are Easy, ouais. Là, genre, OK. Bon, ouais.
Ça sent comme un film qui a peut-être pas très bien vieilli.
C'est ça, ça sent comme un film qui se fait plus ces jours-ci.
et c'est ça, fait que... Mais il était dans Flying Colors. Avec les frères Wyan, puis une émission de télé, là, un peu comme Saturday Night Live okay. Ou comme, okay. Comment ça s'appelait, donc, le magazine Mad,
ouais.
Mad TV. Et
fait que lui, il connaissait.
Hein?
Il connaissait déjà, t'es allé voir son show.
Non, il me connaissait okay, pas. Okay. Moi, je le connaissais. Mais là, la semaine avant qu'il vienne faire son show, moi, j'ai fait mon show au Comedian Magic Club, j'ai passé la semaine là, et celui qui s'occupait du Comedian Magic Club... Magic Club, c'était le frère de Dennis Miller, qui était un autre humoriste américain qui était sur Saturday Night Live, qui faisait une nouvelle. Et il disait, hey, j'ai quelqu'un à te présenter. Je dis, OK. Fait que je m'en vais backstage et c'est Jim Carrey.
Mm-hmm.
Et je le reconnais, tu sais. Puis je l'avais vu faire un gag sur Arsenio Hall, c'est-tu que j'avais braillé de rire chez nous. Lui, il est capable de se disloquer l'épaule. Mais il se disloque l'épaule, mais le bras, il est comme drette de même, tu sais, sur le côté.
Ouais. Ah ouais.
Puis là...
il a le coup des pas pliés, là.
Ouais, c'est ça. Et là, il regarde une fille, puis il dit, « Christ, c'est venteux, ici! » Écoute, je jure, là, j'ai tellement ri, là. Puis là, j'y ai rappelé cette gag-là, puis « Ah ouais, hein. » Fait que là, Miller, il dit, fais-y donc une couple de grimaces à Michel. Fait que là, il commence à m'en faire. mais il dit, gars, il est meilleur que moi, là, tu sais. Quand même, je ferais des grimaces. Tabarnak, un esti de compliment, man, parce que j'ai jamais vu quelqu'un faire des faces comme toi. Moi, je fais des grimaces. Mais toi, c'est hallucinant ce que tu fais avec ta face, là, tu sais. Fait qu'on jase un peu, ça n'a pas duré longtemps. Il m'a fait son personnage du Grand Brûlé. Moi, vous avez déjà vu ça? Oh, c'est épouvantable. il se colle les babines de même en bas, puis un œil. Puis c'est un gars qui était trop proche de son barbecue qui a pogné en feu. Mais c'est drôle, là. Il a de la misère à parler, il y a de l'eau qui vole partout. Anyway, c'était bien drôle. Et là, je décide d'aller le voir le soir même, voir son show. Et là, un autre gag que j'ai ri pendant 4 jours. Mané, il fait son stand-up, il dit, ouais, là, m'arrêter parce que c'est correct ce que je fais, là, tu sais, je vous fais des jokes, tout ça, mais dans ma tête, c'est un autre spectacle. Et maintenant, je vais essayer de mordre mon cou. Et là, c'est 5 minutes d'essayage de se mordre le cou. J'étais là, ben voyons donc, esti. Là, il se relevait, puis tu sais, quand il fait son affaire, il se penche par en arrière, puis t'as vraiment l'impression.
T'as l'impression qu'il tombe, là.
Il disparaît, là. Il tombe, il se relève. Là, je me rappelle, j'étais avec ma blonde de l'époque, Lorna, puis on était dans le char, puis là, on parlait du show, tu sais. Blablabla. Ah ouais, puis quand il essaye de se mordre le cou, et là, je pars à rire, mais je suis plus capable de conduire. Je m'arrête sur le bord de la route, je suis crampé, les yeux me coulent, je sors, ma blonde apprend le volant, je m'en vais du côté passager, je ris, asti. Je l'ai ri pendant 4 jours, cette joke-là. Hey, ce gars-là, là,
une idée si simple.
Malade dans la tête, ouais. Asti. C'est hallucinant. Pis... Du talent, là. Tout devient asti, propice à quelque chose, là, tu sais. C'est hallucinant.
T'es un génie comique, puis après ça, tu le vois jouer dans des trucs dramatiques, puis il est aussi bon, il est aussi. Il est touchant, il est excité.
Ouais,
c'est vraiment.
Ouais, talent incroyable. Je l'ai vu quand il était dans le titre de film pas prononçable.
Eternal Sunshine and the Spotless Mind.
Oh, gueule fraîche. c'est ça.
C'est bon, ce film-là.
Ouais, c'est très bon. Ben, c'est pas quelque chose. C'est pas le casting du tout pour faire ça. Non, finalement, il était super bon.
Ouais,
c'est un gars qui est capable. Pas autant, je dirais, que Robin Williams. Robin Williams.
Que t'as rencontré aussi.
Non, que j'ai vu en spectacle à Montréal. Il venait parler de sa série de films qu'il avait faite avec Stewart, là, un réalisateur canadien, entre autres Miss Doubtfire. Puis il venait de parler de ses films, mais Robin Williams...
C'est une conférence pour un spectacle.
Lui, c'est un crackpot. Il fait pas autant de grimaces, mais c'est un crackpot. Là. Tout aussi rapide, comme ça se peut pas. Là, tu sais. C'est un fou. Et... lui, Robin Williams, il était capable de me faire pleurer. Ce que Jim Carrey n'est pas capable de faire. Il n'est pas capable de me faire pleurer. J'ai jamais... Oui, m'attendrir peut-être, là, mais me faire pleurer aux larmes, là, non. C'est plus Robin Williams.
Ouais.
Jim Carrey, on aime le voir complètement pété. Là, ouais. Dans Ace Ventura, là,
c'est débile.
Jaloux.
Ça n'a pas de sens. Ça.
Mais jaloux, ce film-là.
Mais ça n'a pas de sens que ce soit un film qui soit fait, ça. Ou est-ce que ils ont dû dire, je sais pas c'était quoi sur le plateau, mais ils ont dû dire, fais ce que tu veux.
Je sais pas. Des fois, il fait des essais d'affaires. Là. Mais ce personnage-là, je sais pas s'il a déjà existé. Dans une de ses séries d'émissions comme Flying Colors, okay. Ou, tu as un personnage qui a créé. Mais là, tu sais, tabarnak, c'était complètement. Puis c'est drôle parce que quand ils ont sorti le film, lui, il était pas connu à Montréal. Puis les critiques disaient c'est le Michel Courtemanche des États-Unis. Mais.
Quand même, pareil, tu sais. Pas l'inverse, là. C'est pas le Michel Courtemanche et le Jim Carrey du Québec, c'est l'inverse.
C'est malade.
Ouais. Fait que ça, c'était
quand
c'était
tu dis que t'étais jaloux, t'étais...
Moi, je connaissais la supercherie. Je disais, non, j'ai dit, attends, tabarnak, ouais. attendez de le voir arriver. Là. Je vous en remettrai pas, tiens. Fait que, non, c'est...
Quand tu dis que t'étais jaloux de Ace Ventura, c'est-tu parce que toi, t'aurais aimé ça?
Ah, faire un personnage un projet pété de même, oui.
Comme
aimé
ça, à grand déploiement, au grand écran de toi.
Mais, oui, mais, ben en fait, on a essayé.
Ouais.
Il y a longtemps, en France, de faire en 96, de tourner un film qui au début s'appelait... C'est une longue histoire. As-tu le temps?
Ben,
moi, j'ai le temps. Moi, j'ai le temps.
Vas-y.
C'était le temps, même temps.
En fait, OK. Émile Gaudreau et Stéphane Bourguignon ont une idée de film pour moi. C'est l'histoire d'un jeune enfant qui est complètement... Il est fou. Et ses parents ont peur pour lui. Ils doivent l'enfermer dans une chambre et parce qu'il peut se blesser, il peut se faire mal. Et ils mettent une TV où c'est toujours des cartoons qu'il joue. Fait que le petit gars, il est nourri de cartoons toute sa vie.
Mm-hmm.
Puis les parents, tu sais, ils le sortent pas souvent, puis ils le sortent avec une laisse. Puis... Mais le petit gars, il a passé toute sa vie dans la chambre, tu sais.
Ouais.
Et un jour, la fenêtre de sa chambre pète. Il sort dehors, puis lui, d'après lui, là, tout le monde est cartoon.
Ouais.
Fait qu'il part à l'aventure, puis il vit sa vie de cartoon parmi les
gens. Dans le vrai monde.
C'était vraiment un film, là, tailor-made, là, tu sais.
Mm-hmm.
Fait que Là, OK, fait que là, il y a un producteur français. Ouais, ouais, moi, je veux mettre de l'argent et tout. Téléfilm Canada. Fait que t'avais un Américain entre les deux. What a Pat Sarugi. Ben ouais, c'est ça. Je veux montrer qu'il fait son accent américain.
Tu veux dire British aussi dans la gang ou.
Et ça, il me semble que l'histoire, il y avait un Australien.
Il y avait un Japonais aussi.
Non, ça, c'est hindou, ça. Ah, j'ai-tu le droit, c'est de l'appropriation?
Oh. Fais attention.
On va peut-être heurter des ouais, couple de personnes.
Ah oui, c'est ça. Fait que là, bon, il lève quand même 34 millions de francs pour faire le film. Hein? Ce qui est comme 8 millions de dollars ouais. Il y a 20 ans.
Ouais.
Il y a plus que 20 ans, il y a 25 ans. Fait que c'est pas pire.
Ouais, à peu près 2,5 milliards de dollars.
Et là, le réalisateur du film décide de mettre ses mains dans le scénario. Pas au courant, moi, là. Fait que je suis à Montréal, tout se passe bien. Arrive à Paris pour tourner mon film, me pète les bretelles. Et là, je lis le scénario à l'hôtel, tu sais. Mais c'est plus pantoute la même affaire. Mm. C'est plus drôle, c'est plus pantoute la même affaire. Je sais pas où s'en va avec ça. Je suis pris de panique. Téléfilm veut plus mettre de l'argent dedans.
Les autres aussi l'ont lu. Ils ont lu, puis ils ont fait
non, no way, on le fait plus. À la veille du tournage.
T'es à Paris dans ton hôtel. Là.
Là, la crise d'angoisse, ça, mais là, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas le film, c'est pas ça. Puis là, ça a donné, mon gars, là. Une merde de film, merde. Et ça s'appelait au début Mon destin animé, qui est un beau titre, avec avec l'écriture de nos deux Québécois qui était parfaite. Je sais pas pourquoi ils changeaient ça. Et là, ça s'est appelé La balade de Titus. Je vois le titre. C'est quoi ça, La balade de Titus, tu sais? Et là, après ça, non, finalement, on change le titre. Ça va être Le rêve de la carotte.
Le rêve de la carotte?
Là, c'est-tu un film porno? C'est quoi, là? C'est quoi cette affaire-là? T'as même me traité de manger de carotte? Là? Oh, j'ai-tu le droit de dire ça? Appropriation sexuelle. Et, je capotais, là, tu sais. Puis après ça, ça s'est appelé un autre titre que je me rappelle pas. Puis c'est revenu à Destin Animé parce que la réputation des autres titres avait mal passé. Mm-hmm. Écoute, le film a passé en salle en France une journée. Et le gars dehors remboursait les gens.
Hein?
C'était tellement mauvais. Là.
Mais toi, t'es associé à ça, c'est de la cinémarde?
Ah, c'est de la méga marde. Et c'était un producteur de Montréal, Christian... Il aimerait pas ça, je dis son nom. Christian Larouche. Christian... Christian Larouche de Crystal Film, je pense.
On le salue.
Ouais, on le salue. Salut, Christian. Qui a jamais voulu travailler avec moi après. Je le comprends très bien. Ça a été vraiment... Là, ils ont fait des tests. On va le passer à des enfants. Peut-être que les enfants
qu'on va
sont encore moins niaiseux. Puis en plus, la cassette vidéo que j'ai un seul exemple chez moi. Non, vous le verrez pas.
C'était ma prochaine question.
Je pourrais la faire tirer. Mais à coup de 12. Le film, quand tu l'écoutes, tu te rends compte que c'est un offline. Ils ont même pas égalisé les couleurs. C'est pas les bons panneaux qu'il y a dessus. L'image, elle est pixelisée. C'est la merde.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Réalisateur. Et moi qui n'étais pas si bon que ça.
Ouais.
Les deux. Moi, je sais pas, j'étais pas. J'ai pas été dirigé, C'était vraiment là, gars, c'est la vedette, fais ce que tu veux, là. Je dis, ouais, mais c'est parce que je sais pas quoi faire, là. Puis en plus, je jouais avec Jean-Claude Dreyfus.
Je sais pas si.
Delicatessen.
Ah ouais, j'ai vu ça
fait ouais, tu sais, le gros, là, le boucher, là.
Ouais.
Je jouais avec lui, qui est vraiment. Tu sais, c'est quand même quelqu'un, un esti d'acteur, là. Puis il y avait une nouvelle, là, qui s'appelait. Natasha Leninger. Ouais. Ça a merdé, là, c'était tout croche. Et finalement, ça, c'est ce qui a mis fin à ma carrière au cinéma parce que je devais tourner un film tout de suite après avec Victoria Abril qui s'appelait Le Matou. Ben Polygram a fait non finalement. On a déjà fait un film avec Courtemanche, ça a pas marché. Fait que ça tombe, puis on s'était parlé souvent au téléphone, là, moi puis Victoria Abril. Et puis alors moi je te connais pas, mais il paraît que t'es un genre de Jerry Lewis. Moi j'aime pas Jerry Lewis, je l'aime pas. Ok,
ça part. Cool, ça part sur des bonnes
ondes. Ça part de même. Ok. Ailleurs, ouais. C'est une Italienne en fait, Victoria. Une petite belle femme. Oh my God.
Tant qu'il
change, j'avais pas de blonde à l'époque. Mais on s'est jamais tripoté finalement. Mais dans le film, on se tripotait. Là. Oh, 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 oh.
Un film que je...
Ça aurait été chaud. Ça aurait été d'un cochon. Salut! C'est moi, Dominique.
C'est qui ce personnage?
C'est un nouveau personnage qui va être sur Comme à TV.
Ah,
on sait pas c'est quoi. Ah, tu sais, parce que tu peux pas rien genrer. Là,
ouais, c'est une sexualité ambiguë.
Fait que sais-tu comme. C'est-tu un gay? Non, c'est un transgenre? Non, c'est un gay avec une barbe? Non, c'est une fille avec une barbe. Non, c'est un... Fait que je veux juste mélanger le monde pour pas que ça soit caténé comme ça. Et tout ce qu'il dit, ça sonne sexuel. Il y a ben bon le café. C'est donc bien pratique des portes battantes. J'aime ça des carottes avec de la sauce. Je viens me faire rire.
Aïe, aïe. Tu dis que la face de Jim Carrey se métamorphosait, mais là, on vient de voir une bonne métamorphose. Là. Ça n'était
mais
une
c'est
bonne...
une grimace.
Aïe, aïe.
Ça, c'est une grimace.
On va pas te retenir plus longtemps. Où est-ce que les gens vont, dans le fond? C'est comme à TV.
Comme à TV.tv. Plusieurs forfaits. Là, on est au début de la plateforme. Chaque semaine, il y a du nouveau stock qui arrive.
Vous acceptez aussi, j'imagine, les propositions
de
projets.
On accepte les nains.
Les nains. Les petites personnes.
On accepte les nains. Dégueulasse. On accepte tout le monde. On accepte les projets. Les gens ont juste à me contacter sur info@comatv.com.
Comme à TV, C-O-M-A-T-V.
TV, ouais. C'est comme à TV. C'est ce qu'on fait, c'est comme à TV, mais c'est pas de la télé.
Ouais. C'est super.
C'est ça, je veux dire.
Merci infiniment, c'était un réel plaisir et un honneur.
Ça m'a fait plaisir, les amis.
Yes.
Merci.
Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié la conversation. Ça prouve que vous êtes de réels fans de conversation et du Sans Fil Podcast, et on vous remercie vraiment beaucoup. Si vous voulez avoir plus de contenu, plus de conversations, c'est sur Patreon que ça se passe.
Yes, sur Patreon, non seulement on met tous les podcasts en ligne au moment où est-ce qu'on les tourne, donc on a beaucoup de semaines d'avance sur le Patreon, mais on fait aussi des encore moins de filtres qui sont exclusifs aux membres Patreon, où est-ce qu'on parle, Dom, Nicole et moi, de la conversation qu'on vient d'avoir, où est-ce qu'on va un petit peu plus en profondeur dans certains sujets qu'on voulait aborder ou qu'on a abordé pendant le podcast. Donc, allez sur notre page Patreon, le lien vers ça va être dans la description du podcast. Fait que merci encore une fois de nous avoir écoutés jusqu'à la fin.